sans plus attendre, je ne sais pas s'il est utile ou peut-être j'aurais pu laisser la parole à Laurent pour un peu expliquer les tenants et aboutissants de cette journée d'études hein, qui fait suite à la soirée d'hier à laquelle je n'ai pu assister. Je crois qu'il y avait un peu de monde, hein, donc il y a des échanges fructueux d'après ce que j'ai entendu. Raison d'agir, je ne vais pas représenter la structure, mais a fait le choix cette année de travailler sur un concept qu'on essaiera peut-être de définir. Qu'est-ce que sont les espérances politiques par rapport même à ce qu'on nomme les utopies. Et donc il s'agissait à travers des documentaires, à travers des films, hein, comme ce soir, le film Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000, et puis des interventions à caractère universitaire, tenter de faire le tour de la question en s'interrogeant de toute évidence sur ce qui rend possible à un moment particulier l'émergence, à la fois sur le plan théorique mais aussi sur le plan pratique, d'éléments nouveaux, d'espoir, et dans quelle mesure les acteurs s'en saisissent et en quoi d'ailleurs cela transforme la société ou des groupes d'acteurs. Donc ce matin, on va traiter plutôt du 19e siècle en accueillant Anne Jollet et Nathalie Brémond. Donc Anne Jollet immédiatement sur ma gauche et Nathalie Brémond un peu plus loin. Anne Jollet qui est maître de conférence en histoire moderne à l'université de Poitiers, qui travaille depuis de nombreuses années sur la Révolution française, et puis notamment, en plus on est presque sur ton sujet, hein, en quoi justement cette période particulière qui voit des transformations rapides de la société et notamment voit l'émergence de textes fondateurs comme la Déclaration des droits de l'homme, comment ces textes émergent, comment se fait-il qu'ils arrivent à s'imposer dans nos sociétés et changer du coup les rapports sociaux. Et dans un second temps, je laisserai peut-être te représenter en détail, Anne. Et dans un second temps, on s'intéressera à des acteurs qui sont peut-être une période un peu moins connue, ou du moins dont les travaux qui ont été faits sont quelquefois un peu partisans autour de la question des premiers socialistes et des socialistes utopiques, comme on les appelle, avec des guillemets évidemment. Donc Nathalie Brémond nous en parlera, hein, qui est elle-même bibliothécaire à l'université de Poitiers, qui s'occupe de la bibliothèque virtuelle des premiers socialistes, hein, dont elle évoquera et nous montrera d'ailleurs à travers on pourrait découvrir le site internet lors de son intervention. Et au-delà des doctrines, des textes, des Fourier, de certains autres, elle s'attachera plus à montrer les pratiques réalisées, hein, ce qu'on produit concrètement un certain nombre de ces socialistes à travers notamment le fonds du bois. Hein, vraiment, c'est une invitation à se pencher sur ce fonds d'archives qui est loin d'être travaillé entièrement et qui dans lequel il y a certainement de beaux documents, de belles surprises, de belles choses à faire germer. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Anne Jollet qui, pour une 20-25 minutes, puis on laissera même peut-être plus, on a du temps, mais 20-25 minutes afin qu'on puisse aussi échanger. Là, on a le luxe de pouvoir le faire, c'est pas toujours le cas dans des rencontres de ce type, donc on a du temps, profitons-en.
Oui. Ce que je vais dire, hein, c'est pas une conférence. C'est des choses autour de ce sujet. J'ai pas préparé de conférence parce que j'étais pas dans l'esprit d'en préparer une, parce que comme vous savez peut-être, nous sommes très mobilisés à l'université. On a été beaucoup tendue, donc pris réellement par un mouvement social. Évidemment, ça peut détourner des livres, ça amène aussi à réinterroger les objets d'histoire. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est toujours quelque chose de salutaire par rapport à nos travaux. Et évidemment, quand je me suis repenchée sur ces questions, c'était peut-être avec une acuité renouvelée liée à ce que j'étais en train de vivre moi-même. Donc je crois que c'est des interrogations, ces questions de la construction, de l'espérance, de l'espoir, qu'évidemment on a toujours au cœur de tout, alors ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement social, terme sur lequel bon, les sociologues nous donneront leur lumière. Moi, je me suis contentée, en regardant à nouveau le programme, de me dire, oh là là, dans quoi je me suis lancée là, cette question des espérances, et pourquoi est-ce que moi, j'ai proposé un titre qui comporte le mot espoir et pas le mot espérance. Et vous avez peut-être regardé dans le programme, il y a constamment une... ce qui peut apparaître comme une oscillation, enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté, je suppose qu'au moment de la programmation, évidemment, vous aviez ça dans la tête. Et en préparant cette intervention, je me suis dit que c'était très émouvant pour moi de parler d'espérance, parce que dans le contexte du XVIIIe siècle, c'est un mot qui n'a pas du tout un sens politique, hein, qui a un sens d'une part sentimental. Il y a des espérances dans le domaine des sentiments et de la vie amoureuse, et le XVIIIe siècle est très friand de ce type d'émotion. Et puis, il y a des espérances dans le domaine de la théologie, hein, c'est une des vertus théologales. Donc, on est là dans un registre qui, en tout cas au XVIIIe siècle, n'est pas du tout politisé. Et du coup, j'ai pensé que j'avais plutôt choisi le terme d'espoir, parce qu'en fait, alors espoir est également sentimental au XVIIIe siècle et n'a pas de connotation politique, est beaucoup moins présent hein, dans le vocabulaire. Par exemple, ça n'apparaît pas dans la grande encyclopédie, alors que espérance est vraiment un terme qui, notamment du fait de sa dimension théologique, a une forte présence. Espoir est, en fait, a été beaucoup plus reconstruit, c'est dommage que Michel Pigenet ne soit pas là pour nous en parler, dans un sens politique au XXe siècle. Et j'aurais bien aimé, mais peut-être que déjà les 19e-istes nous en parleront, que justement on confronte un peu nos appréciations sur cette construction politique hein, de ce terme. Alors, espoir... Quand je l'ai choisi, je pense que c'était habité par la façon dont notamment il a été réutilisé pour ma culture personnelle dans les luttes autour de 36, hein, avec peut-être le roman emblématique de Malraux. Mais en tout cas, je pense qu'il y a là quelque chose qui peut-être s'enracine dans une culture vraiment du XXe siècle. En tout cas, pour le XVIIIe siècle, c'est un mot qui est étranger hein, dans le sens politique. Alors, par contre, en relisant les textes à la lumière de cette préparation, je me suis rendu compte que, évidemment, c'était important de parler de cette question de l'espoir, de l'espérance dans le contexte de la Révolution, parce que constamment, au niveau du vocabulaire, dans les délibérations, dans les articles, la question c'est le mot espérer, hein, j'espère, donc qui traduit cette attente d'événements nouveaux. Donc, je remercie les organisateurs donc, de m'avoir amené à réfléchir dans cette optique. Et puis, c'est parce que ça me plaisait bien que j'ai donc dit que je viendrais. Donc, cette question de l'attente, optimiste de quelque chose donc, qui est ressenti comme possible, est évidemment, il me semble, au cœur de tout processus révolutionnaire. Hein, c'est le temps que ce possible l'emporte sur ce qu'une historienne récemment a appelé l'effroi, enfin, a remis en évidence sous la forme de l'effroi, donc une forme de peur, hein, mais de peur intense. Donc le temps que cette attente du possible l'emporte sur l'impossible, que le processus révolutionnaire se développe. Alors, c'est donc ce sujet. Ah oui, je voulais dire au passage, ça me donne toujours une émotion. Décidément, je suis très émue en ce moment. Bon, c'est normal, on est un peu nerveux. Quand tu me mets dans les 19e et dans la présentation, donc le titre, c'est 19e. Alors, j'ai frémi en me disant, oh là là, quelle usurpation de titre, hein, parce que je suis moderniste. Et l'époque moderne pour un universitaire, on ne sait pas exactement quand ça s'arrête, mais ça peut s'arrêter après la Révolution française. Et donc, j'ai un sentiment mitigé quant à mon appartenance à la réflexion politique du 19e siècle. Et sans doute, vous le comprendrez mieux en m'écoutant. Évidemment, je pense davantage ces processus révolutionnaires par rapport à la construction culturelle, politique des objets du XVIIIe siècle, hein, plus qu'à travers des questions de devenir ou de réemploi dans le contexte du XIXe. Donc, c'était, je ferme cette parenthèse. La question, je l'ai d'abord posée, donc comme vous avez vu dans le titre, à travers la question de l'espoir dans l'égalité des droits, et que j'ai mis en balancement avec espoir quant à l'égalité des jouissances. Après, j'ai regretté ce titre parce que je pense qu'il ne faut pas du tout, évidemment, le penser comme une espèce de dualité dans le temps. Pour les hommes de l'époque, il va de soi que les deux sont articulés. La question étant que ça n'est pas articulé de la même façon pour l'ensemble des acteurs sociaux et que, on va dire, le discours dominant n'est pas le même en 1789 ou en 1793. Mais il va de soi qu'il ne s'agit pas d'une espèce de chronologie opposant un deux temps. Il s'agit bien d'un processus à travers lequel cette combinaison de ce qu'on a, donc de cette question d'égalité des droits et de la question, il vaudrait mieux dire finalement du droit à l'existence, hein, puisque la question des jouissances, c'est réellement la question du droit à l'existence. Les deux sont toujours liés, et c'est justement sur la façon dont ces deux sont liés que se développe le débat politique. Et peut-être encore aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui fait la modernité et l'intérêt pour nous, hein, de cet épisode révolutionnaire. Donc, dans un premier temps, je voulais revenir sur cette question de la construction de l'espoir quant à l'égalité des droits. Il s'agit évidemment de quelque chose qui s'est construit dans un moyen terme, pour le coup du XVIIIe siècle, sur lequel les historiens contemporains sont revenus dans une étude beaucoup plus précise que dans le passé, qui peut-être nous devons aux sociologues, sur la construction des pratiques culturelles, sur donc quelque chose qui n'est pas seulement une histoire des idées, mais qui est une histoire de l'appropriation des idées à travers différentes structures, notamment à travers des cabinets de lecture, à travers la multiplication des tirages des livres, à travers la réduction des prix des ouvrages. Donc, une multiplication des formes d'accès à l'imprimé, des diversifications des formes de la lecture avec lecture publique, etc. Aujourd'hui, bon, on a des éléments nombreux, hein, qui nous permettent de beaucoup mieux saisir qu'il y a une forme nouvelle, hein, de diffusion des savoirs. Multiplication aussi de la presse, et notamment apparition d'une presse provinciale, hein, qui est tardive, mais qui date des années 1770, y compris dans le Poitou. L'autre aspect, c'est de ce moyen terme, c'est évidemment les productions qui se diffuse à travers cette imprimerie et cette presse, la question de la philosophie du droit naturel, hein, qui est l'arrière-plan de tout ce qui va constituer justement l'espoir, ou plutôt la conviction qu'il est nécessaire de mettre un terme à la société ancienne et qu'il est possible d'en mettre sur pied une nouvelle. Alors, cette philosophie du droit naturel, hein, ce n'est pas une création du XVIIIe siècle. On sait que là aussi, ça chemine de loin. Mais c'est vraiment quelque chose qui est progressivement approprié dans des milieux sociaux de plus en plus larges, jusqu'à devenir une espèce d'évidence partagée. Et c'est un peu ce dont ensuite je voudrais vous parler. Comment quelque chose qui est une pensée qui est totalement antithétique avec avec l'organisation de la société d'ordre est devenue une pensée dominante face à laquelle on ne peut plus trouver que des parades marginales. Et donc c'est notamment ce que l'on voit à travers les débats sur la Déclaration des droits de 1789. Alors, dans le plus court terme, je voulais dire quelques mots sur la façon dont on passe de quelque chose qui, dans les années 70, donc 1770, hein, 1780, est une forme de contestation contre le despotisme ministériel, contre l'arbitraire royal, contre la censure, à une construction qui est plus politique, qui est donc cette nécessité de sortir d'une société inégalitaire, donc qui nie les droits naturels de l'homme. Alors, cette construction, il me semble qu'elle se fait à travers, justement, dans le cadre du processus révolutionnaire, à partir, bon, il n'y a jamais de départ ni de fin radicale en histoire, mais à partir du moment où une conviction politique s'impose comme l'issue, qui est celle de la convocation des États généraux. C'est-à-dire que progressivement, ce mécontentement se polarise autour d'une solution. Donc, je reviens à mon idée des possibles. Il y a une solution absolument nécessaire, et ce qui fait sa force, c'est qu'elle va s'imposer comme la solution unique, enfin, une solution au moins très largement partagée, et partagée par des groupes sociaux qui sont opposés, sur l'idée que donc il faut réformer la monarchie, il faut transformer la société, même si on n'est pas d'accord exactement sur comment, mais que ça peut se faire à travers quelque chose que l'on peut penser, qui sont ces États généraux. Alors, ça fait partie, bon, vous savez que les États généraux, c'est vraiment une vieillerie, et en même temps, vous savez que c'est toujours à l'ordre du jour, comme quoi notre imagination dans l'univers social est quand même assez limitée. Bon, c'est peut-être pour ça que nous n'arrivons pas à changer la société, parce que si on pense, donc dans les termes de ces États généraux, sans trop savoir, dans le fond, quelle analogie il y a avec ces États généraux qui ont été réellement opératoires politiquement de 1789, peut-être que justement nous n'avons pas l'outil réellement opératoire. Bon, parce que ces États généraux, ils sont dans l'esprit du 18e légitimés par l'histoire, hein, donc ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. On n'a pas une pensée dans laquelle le passé est légitimant, on a plutôt une pensée dans laquelle le passé est délégitimant. Donc toute la pensée du 18e est une pensée historiciste, dans laquelle le fait que quelque chose est ancien a déjà existé et est le plus ancien possible, est un argument d'autorité et de viabilité. Donc cette idée des États généraux, c'est pareil, hein, c'est une proposition qui revenait épisodiquement à chaque crise d'autorité de la monarchie. Bon, vous savez tous que réellement, ces états généraux ont été convoqués pour la dernière fois en 1651, donc à l'époque, ça a quand même 140 ans, mais là aussi, bon, le rapport au temps est très très différent hein, d'une autre, et 140 ans, c'est pas quelque chose hein, d'écrasant, et que les derniers qui se sont réellement réunis datent de 1714. Donc c'est une expérience très ancienne, donc qui s'ancre vraiment dans ce qui est contesté dans la société, enfin qui est un des... le point fort de polarisation qu'est la société d'ordre, hein, puisque les états généraux sont convoqués pour représenter par les trois ordres les sujets du roi sous une forme qui n'a rien à voir avec les systèmes de représentation tels qu'ils se sont développés, notamment dans les pays qui sont considérés comme les phares de la liberté, qui sont l'Angleterre, ou désormais les anciennes colonies américaines. Donc il s'agit bien de quelque chose qui s'emboîte dans le passé, qui assure donc aux trois ordres une légitimité de représentation sur des critères donc, de représentation qui ne sont pas forcément très, très élaborés. Mais ce qui me semble très important dans notre propos, c'est l'importance de la convergence sur ce thème, utilisé d'une façon très, très politicienne, on peut dire qu'il y a vraiment une construction de cette solution politique par tous ceux qui contestent la monarchie. Alors ça, c'est un premier point. Un second point que je voulais développer dans cette affaire, c'est comment est-ce que l'on passe donc de cette structure ancienne à quelque chose qui va pouvoir devenir une matrice de nouveau, donc justement être porteur d'espoir. Et il me semble que là-dedans, il y a dans le court terme, donc de 88-89, une accélération de la réflexion autour de quelque chose que vous connaissez bien, qui s'est traduit en janvier 89 par le pamphlet de l'abbé Sieyès, qu'est-ce que le tiers-état ? Donc, en même temps que s'affirme cette importance de la convocation des états généraux comme solution à la crise et comme solution pour l'ensemble du royaume, se développe un autre axe qui va finalement s'agréger à cette idée des états généraux, qui est la définition du tiers-état. Alors là aussi, le tiers-état, l'expression elle-même est fort ancienne. C'est là aussi quelque chose de très archaïque, hein, dans lequel s'ancrent des revendications nouvelles. C'est quelque chose qui va être... qui va intégrer donc cette structure ancienne, des idées nouvelles sur la question donc mise en avant par les philosophes, notamment utilitaristes, et puis les Lumières françaises, sur le critère de l'utilité sociale comme nouveau critère fondant les inégalités et seule source de légitimité des hiérarchies. Des idées notamment que Voltaire a beaucoup contribué à vulgariser. Que Voltaire vulgarise donc dès la première moitié du siècle, hein, dès ses premiers écrits, dans des écrits très très incisifs contre les aristocrates. Hein, vous avez peut-être des souvenirs où le noble, de façon générale, celui qui fait l'antichambre des grands, le marquis Poudré, bon, etc. Je ne reviens pas là-dessus, qui l'oppose au marchand, hein, à celui qui est utile à sa société. Et évidemment, il y a là-dedans tout le thème de la valorisation du travail comme source de la légitimité, de l'inégalité et de l'inégalité justement des jouissances. Donc c'est ce thème ancien qui est récupéré à travers cette nouvelle définition du tiers-état. Donc c'est pas du tout ce que fait Voltaire, hein. Lui justement il ne donne pas ce contenu social large. Et c'est cette création donc, du tiers-état comme englobant tous ceux qui travaillent et s'opposant à ceux qui sont désormais sur la marge de la nation, parce que justement ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne produisent pas de la richesse, que les États généraux vont se rassembler. Alors, évidemment, je vous ai parlé du pamphlet de Sieyès, qui est vraiment un best-seller de 1789, qui doit être inscrit dans un contexte qui est véritablement un contexte de lutte idéologique, avec une très grande efficacité liée à une forme de rédaction qui explique son succès, qui est particulièrement claire, ce qui n'est pas toujours le cas de Sieyès. Ça, c'était vraiment une de ses rares réussites, parce que je dirais que par ailleurs, je ne sais pas si... Non, vous n'avez pas, vous n'êtes pas imposé ça. C'est quelqu'un dont la lecture est... il a été accusé d'être métaphysique, mais effectivement, et c'est souvent des expressions très complexes du droit et de la morale qui sont au centre de ses projets politiques. Porteur d'espoir, hein, cette construction politique d'un tiers État qui a légitimité à incarner l'ensemble de la nation. Alors, dans ce processus, je m'excuse parce que je n'ai pas lu mes notes, donc j'ai oublié des choses très importantes, mais on en parlera. Dans ce processus, évidemment, il y a une conjoncture courte qui est celle des rapports de force entre le pouvoir et ceux qui le contestent dans ces années de 87 à 89. Dans cette conjoncture courte, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la question de la nécessité de la réunion des États généraux, nécessité des États généraux qui va finir par acculer la monarchie à accepter cette convocation. Vous savez que cette convocation, dans un premier temps, elle avait été placée en 1792 par le monarque qui n'était pas très pressé de réunir les États généraux, et que là aussi on retrouve l'importance des luttes sociales et du rapport de force qui fait que l'urgence des États généraux est imposée par ceux qui contestent la monarchie. Donc c'est à partir du moment où il y a cette convocation des États généraux désormais pour mai 89, donc en quelques mois, que l'on a là, donc entre outre 88 et mai 89, un temps court dans lequel un immense espoir que vous avez tous fréquenté à un moment ou un autre de votre vie s'exprime, qui est, on peut dire, une attente générale par rapport à ce que ces États généraux doivent apporter, et y compris des attentes contradictoires, mais là aussi ce qui fait la force du mouvement, c'est cette convergence donc sur de l'attente sur cet espace politique ainsi créé. Donc ces États généraux, vous le savez, je ne refais pas cette histoire, ils ont d'autant plus développé d'attentes et d'espoir parce qu'il y a beaucoup de possibles, puisque la monarchie ne fixe pas le règlement de ces États généraux. La monarchie va fixer finalement le 27 décembre ce règlement, qui va être publié qu'en janvier. Donc il y a là plusieurs mois pendant lesquels c'est dans l'opinion publique, ce qu'on peut désormais appeler une opinion publique, justement travaillée par une circulation de l'information, par porte-parole, on peut dire, des gens qui s'instituent comme devant préparer ces États généraux et travaillant à la convergence des mots d'ordre pour les conditions de réunion de ces États généraux. Donc en quelques mois, se développe notamment la question, vous connaissez bien, du doublement du tiers, donc des députés et du tiers État, qui est une question qui a déjà cheminé dans la société, mais qui est devenue en 88, quelque chose qui désormais est de l'ordre, même plus de l'espoir, mais du possible, du possible à très court terme, donc que l'on peut imposer à la monarchie, et de fait que l'on a imposé dans la protestation sociale à travers les États du Dauphiné et qui donc est assez vite obtenu. Et puis l'autre question, c'est celle de la sortie de la société d'ordre, hein, qui est vraiment le point crucial de cette réunion, et donc de savoir si on va voter par tête ou par ordre dans cette assemblée. Et ce problème, cette question qui n'est pas tranchée par la monarchie, donne lieu à énormément de débats et va animer toute cette campagne, hein, sur la transformation donc la transformation du fonctionnement de l'Assemblée et à travers cette transformation du fonctionnement de l'Assemblée, une transformation de fait de la société. Sur ce moment, bon, je ne vais pas développer davantage parce que c'est des choses qui sont bien connues, mais il y a véritablement un phénomène de libération des possibles, hein, qui s'expriment à travers notamment les cahiers de doléances, bon, qui ont été bien étudiés, mais ce qui a été moins bien étudié, c'est comment, et ça a été étudié récemment à travers des correspondances, à travers des journaux personnels, comment ces cahiers de doléances ont été rédigés dans des conditions qui sont des conditions de réflexion collective, dans lesquelles ceux qui les rédigent ne sont pas des gens qui sont isolés, hein, socialement, mais qui sont en fait rattachés à des réseaux. Alors, des réseaux qui ne sont pas des réseaux très structurés politiquement, mais qui sont des réseaux familiaux, des réseaux professionnels. On retrouve la question de la propriété, hein, comment notamment la bourgeoisie urbaine, à travers ses propriétés rurales, bon, diffuse des mots d'ordre dans les campagnes, comment aussi elle enregistre la diversité, et là on pourrait dire la diversité justement des espérances, à travers la résistance des ruraux à ces mots d'ordre unifiés que tente de diffuser la bourgeoisie urbaine. Moment fondamental dans la construction de cette attente, de cet espoir, qui permet de comprendre comment, pour reprendre les mots d'un historien américain, comment ces députés de 89, hein, sont devenus révolutionnaires, c'est-à-dire comment, une fois réunis, ces élus des États généraux, donc ces élus dans le cadre de la société d'ordre, vont, pour un grand nombre, et en particulier pour ceux du tiers-État, souhaiter sortir des cadres de la société d'ordre et mettre toute leur énergie à imposer cette sortie à travers leur résistance au fonctionnement tel qu'il était imposé par la monarchie, et donc en devenant, comme le dit Timothy Tackett, révolutionnaire, puisqu'il s'oppose aux injonctions royales. Alors, c'est ensuite ce que je voulais dire là-dessus, c'est comment cette gigantesque attente se convertit d'une part en une force, donc qui est cette force de résistance, qui à certains moments voit, en tout cas parmi les députés, bon, maintenant ça a été assez bien étudié, on pourrait dire l'espoir s'affaiblir, ou l'idée du possible s'affaiblir, et parfois l'impossible pointé. Hein, c'est très intéressant dans la publication des correspondances, et notamment de certains députés qui sont des députés, on va dire, modestes, hein, qui sont les députés, comme on dit, muets de l'Assemblée. Ils sont peut-être muets à l'Assemblée, mais ça ne les empêche pas souvent d'écrire. Et notamment, c'est des gens très sérieux qui écrivent pour informer leurs commettants dans les provinces. Comment, par moment, face à la résistance royale, face à la résistance en particulier de l'ordre nobiliaire, il y a l'idée que l'Assemblée ne va pas pouvoir poursuivre son travail. Et très souvent, comme c'est des gens qui sont loin de chez eux, etc., ils sont très soucieux de... Ils sont un peu comme nous avec nos problèmes de calendrier. Ils sont très soucieux du tempo de ce travail collectif. Et par moment, ils sont du côté plutôt du désespoir, en disant « mais on ne fait rien, on est là à Versailles, ça nous coûte très cher, et il ne se passe rien ». Et évidemment, l'idée peut s'imposer que finalement la monarchie a gagné son pari parce que ben, y en a qui s'en vont, hein, parce que réellement ça coûte réellement cher d'être à Versailles. Certains, bon, on a par exemple les publications de la correspondance d'un fermier des Flandres, il est très inquiet parce qu'il ne pourra pas être là à l'époque de la récolte, donc il écrit à sa femme, hein, mais heureusement sa femme était une très bonne chef d'exploitation et il lui explique bien ce à quoi il faut faire particulièrement attention, etc. Et on voit bien que bon, ça lui pèse énormément. Donc, qu'est-ce qui fait, c'est ce sur quoi on pourrait s'interroger, qu'est-ce qui fait que finalement, c'est quand même la résistance qui l'emporte, hein. Et à travers la lecture de ces textes, on voit qu'il y a, bon là j'ai beaucoup parlé du substrat idéologique, mais il y a aussi tout le mouvement populaire qui à la fois fait peur et en même temps produit une espèce d'exaltation chez ces gens qui se sentent désormais justement l'incarnation du tiers-État et donc porteurs d'une sorte de mission qui les dépasse. Donc ça, on le voit très bien, notamment dans la correspondance là, du député, malheureusement, un grand nombre de ces correspondances ne sont pas très facilement accessibles, mais du député Le Poutre, dont je parlais tout à l'heure, comment... l'idée que le peuple de Paris viendra sauver l'Assemblée si jamais il y avait une attaque royale est un élément fort. On voit aussi comment l'idée bah, qui nous traverse aussi de temps en temps, que de toute façon on a déjà perdu tellement de temps qu'on ne peut pas se résoudre à abandonner un chantier qui déjà a coûté tellement d'efforts, hein, et que ce serait trop grave pour l'avenir. Et se construit aussi, et ça c'est le propre, hein, d'un processus révolutionnaire, de nouvelles lignes de clivage ou un renforcement du clivage et d'une identité, c'est-à-dire que cette identité d'appartenir au tiers-État qui les porte, elle est renforcée par la résistance de la noblesse, et c'est évident dans ces moments-là se crée cette image globale de la noblesse comme opposée, qui est en partie fausse, hein, puisque une partie des élus de la noblesse sont des libéraux, etc., et qui vont porter, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, mais de la noblesse comme ordre, justement, inutile et comme ordre qui freine la transformation nécessaire de la société. Donc, cet aspect, alors je voulais le développer ensuite à travers justement les débats concernant la Déclaration des droits, qui me semble marquer un autre moment, mais je vois que j'ai été beaucoup beaucoup trop longue, parce que j'en suis vraiment pas à ma question des droits à l'existence. La Déclaration des droits qui fait rentrer à la fois dans l'institution, donc dans la réalisation du possible, hein, c'est le premier texte par lequel ces députés vont mettre en place ce qu'ils avaient projet de réaliser, donc les bases d'une société nouvelle, et comment à travers ce débat, justement, apparaissent de nouveaux clivages autour de questions qui sont donc réactualisées, comme celle de la nécessité de réaffirmer les droits naturels. Donc c'est là que je disais tout à l'heure, il y a une espèce d'acquis qui fait que, y compris les plus conservateurs, qui sont en particulier les membres du clergé, du haut clergé, ne peuvent pas revenir sur l'idée de droit naturel, mais la question est de savoir si ces droits naturels doivent être proclamés, s'ils doivent être donc enseignés, ou s'il est dangereux pour l'ordre social, et y compris par rapport une soumission dans le cadre de la religion catholique, hein, s'il est possible de défendre cette question donc de la proclamation. Alors, à travers l'étude de ces débats, on voit bien comment la tentation de se précise chez certains de limiter la portée de cette transformation, et comment dans une partie de l'Assemblée qui finalement est majoritaire, mais est finalement souvent là aussi ça m'a fait penser à nos assemblées, on a trop l'impression de l'extérieur qu'il y a un mouvement général. En fait, souvent les votes sont assez partagés, hein, et notamment sur donc l'existence d'une déclaration, sur l'importance d'un préambule, sur les grandes questions en débat, et notamment l'importance de la question religieuse. Il y a un partage, y compris parmi des membres du tiers état, sur jusqu'où justement il est possible de changer. Alors finalement, c'est une solution de compromis. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que cette déclaration des droits de l'homme, donc, qui est votée en plusieurs étapes, qui n'est pas du tout un bloc, hein, qui a été discuté article par article et voté par article, cette production qui est donc un compromis, hein, pour les hommes de l'Assemblée. Bon, j'en avais apporté quelques exemplaires, mais vous la connaissez tous par cœur. C'est un texte particulièrement court. C'est une idée qui était partagée chez beaucoup, qu'il fallait que le texte soit court, mais la plupart des textes qui ont été proposés sont des textes beaucoup plus longs. Et donc, si elle est courte, finalement, ce n'est pas tellement parce qu'il y a un accord unanime, c'est parce qu'on a évité les points qui font difficulté, on les a éludés en rédigeant un texte court. Et très souvent, c'est des articles, quand on confronte aux propositions, c'est des articles qui ont été tronqués, donc c'est une espèce de paradoxe ensuite de la lecture de ce texte, hein. C'est des articles tronqués parce qu'on a voulu garder une forme d'imprécision qui permette justement de devenir possible. Donc à la fois, si on veut, c'est un texte qui préserve l'avenir, donc qui préserve pour certains l'espoir, et qui pour d'autres préserve des garanties concernant l'ordre social. Alors c'est le cas en particulier, vous le savez tous, sur deux questions. Donc j'ai parlé de la liberté religieuse, mais aussi de la liberté de la presse. Donc pour finir là-dessus, ce qui est impressionnant, c'est comment ce texte va être porteur d'espoir et de projet, alors que lui-même, il est considéré par ceux qui l'ont fait plutôt comme donc un compromis et comme quelque chose d'inachevé. Hein, l'idée était partagée parmi les constituants que l'on allait reprendre ce projet et peut-être le reprendre une fois la constitution rédigée. Et de fait, il deviendra progressivement quelque chose auquel, en particulier, les conservateurs ne veulent absolument plus toucher, et sa portée universelle et internationale va l'imposer comme un des aspects, une marque fondamentale du succès de cette ambition révolutionnaire. Alors, le second point, mais je vais peut-être pas en parler, on en parlera tout à l'heure, que je voulais développer, c'est comment, dans ces débats, est posée la question de la propriété, qui, comme vous le savez, est une question, là aussi, qui n'est pas du tout indépendante de la question de l'égalité naturelle, de l'égalité en droit, puisqu'elle a été articulée de façon immédiate par Rousseau et de façon radicale comme étant justement une des formes, une des sources de l'inégalité. Alors la question de la propriété, elle est présente sous cette forme de réflexion politique tout au long du XVIIIe siècle. Elle est présente aussi à travers les luttes sociales du XVIIIe siècle qui posent la question justement du droit à l'existence, hein, qui n'est pas ni dans les termes ni dans les revendications une création révolutionnaire. La question du droit à l'existence à travers notamment le prix des marchandises qui permettent la vie, ce qui est dans l'économie d'Ancien Régime, en particulier le blé, et donc la question du commerce des grains et l'opposition au libéralisme qui triomphe au moins dans la seconde moitié du siècle, est une question qui est très ouvertement posée à travers de nombreuses émeutes populaires, à travers les arrestations de grains, justement, ce qu'on appelle la taxation, c'est-à-dire le fait que les grains soient partagés entre les émeutiers à un prix qui est fixé par les émeutiers et qui est un prix qui est considéré donc comme étant le juste prix, c'est-à-dire justement le prix qui permet l'existence. Alors, ces taxations du XVIIIe siècle ont été bien étudiées, mais plus récemment, on a aussi étudié des questions de façon un peu nouvelle, et peut-être Michel Pigenet aurait pu nous en parler, puisque c'est un spécialiste aussi de l'histoire du travail, des formes de grève liées à la rémunération du travail. Et là aussi, avec, on peut dire, la construction... Alors, certains historiens ont parlé d'économie morale, donc d'une espèce d'horizon global, d'une économie fonctionnant dans le respect de ce droit à l'existence. Ce que l'on peut voir, pour arriver plus vite sur l'espoir révolutionnaire, c'est qu'à travers les cahiers de doléances, ce que justement essaie d'éradiquer les missionnaires urbains qui viennent dans les campagnes, ce sont ces revendications concernant, par exemple, le prix des fermages, concernant évidemment les prélèvements seigneuriaux, mais aussi tout ce qui limite donc le droit de la propriété. C'est toujours qualifié de ridicule par les élites bourgeoises, donc qui essaient, et ça on le voit bien dans les correspondances, de faire renoncer le peuple rural à ce type de revendication, et qui pose explicitement la question du respect de la propriété. Alors, cette question de la propriété, elle est donc centrale. La façon dont elle est pensée est un objet de débat. Ce que je voulais dire, c'est dès 1789, donc évidemment avant, mais dans ce contexte cette grande ouverture, ce grand espoir de 89, donc qui n'est pas une mise en cause de la propriété, mais qui est une mise en cause des formes de la propriété, dans la mesure où cette propriété peut limiter la liberté, d'où ce qui émerge dans certaines propositions, qui est la limitation du droit de propriété, qui est considéré comme un droit naturel, au droit de la propriété d'autrui. C'est-à-dire, comme il y a une limite à toute liberté dans le cadre du contrat social, il y a une limite aussi au droit de propriété. Donc, là-dessus, je voulais revenir un petit peu, parce qu'après, j'ai eu le regret que mon titre puisse faire penser qu'il y avait là deux temps disjoints, ce qui n'est pas du tout le cas. Et justement, ce qui est le propre du processus, je vous rassure, je termine, là je vais faire ma conclusion, c'est que cette affirmation, pas l'affirmation en elle-même à travers la déclaration, mais la conviction qu'un ordre nouveau se met en place, vous savez que ça a provoqué un immense espoir, notamment dans le monde rural, qui se traduit par ce qu'on peut appeler la guerre au château, ou la grande peur, enfin par cette série d'émeutes, pas seulement d'ailleurs dans le cadre de la grande peur de fin juillet, mais dès le printemps 89, des tas de formes considérées comme des formes d'usurpation au droit de propriété, qui sont par exemple l'utilisation des forêts de façon donc atteinte à la propriété seigneuriale, qui dans à la propriété de la forêt, qui dans l'ensemble est une propriété nobiliaire, donc les deux hostilités se rejoignent, mais atteinte aussi au privilège de la chasse, avec une généralisation de la chasse. Et la généralisation de la chasse, elle est vraiment bien au cœur de l'articulation des deux problèmes, puisque autant la bourgeoisie constituante est d'accord sur le fait que la chasse ne doit pas être un privilège lié à la société d'ordre, autant elle n'est pas d'accord sur le fait que la chasse puisse être le droit de tout un chacun, parce que le droit de chasse est un droit lié à la propriété. Donc aller chasser sur la terre d'autrui, c'est porter atteinte à la liberté d'autrui quant à sa propriété, d'où ce conflit qui est un des conflits majeurs dans cette affaire. Donc ce sur quoi je voulais insister lourdement, c'est comment évidemment cette question d'un espoir nouveau et d'attentes qui sont différentes selon les groupes sociaux, est posé d'emblée dès 89, donc relancé à travers ces séries d'émeutes et qui se traduisent par l'abolition de la société d'ordre et des privilèges. Mais là aussi, cette abolition formelle ne met pas du tout fin ni aux luttes, ni à cette contradiction entre respect de la propriété et droit à l'existence qui continue à cheminer. Et donc, je voulais arriver à travers ça à la façon dont une nouvelle articulation est posée à travers le cadre républicain de 92 et de 93. Mais on pourra en reparler.
Donc merci pour cette contribution, somme toute assez dense, pour quelque chose qui semblait avoir été pas tout à fait relu. C'est quand même, on a eu beaucoup d'éléments, et donc ça m'a presque... C'est-à-dire, il y a un certain nombre de questions que je me posais, là, notamment sur la question de l'égalité des jouissances là, que tu as bien su mettre en exergue. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions dans la salle. On a un peu de temps, hein, justement, pour qu'il y ait des échanges. Peut-être revenir sur... C'est que j'ai peur... Ouais. On est entre nous. Il y a une proposition à ce que l'on continue... avec Nathalie Brément directement, ou si vraiment il y a des questions urgentes qui ne peuvent pas attendre, ou des gens qui doivent s'en aller. Non ? On continue ? Bon, très bien.
L'histoire peut toujours attendre.
Voilà.
Oui, voilà. Donc apparemment, le micro marche. Donc, tout d'abord, je voulais remercier le festival Raison d'agir de m'avoir invité, et puis l'Espace Mendès France, par la même occasion. Donc moi, je vais vous parler vraiment d'autre chose. Oui, je vais vous parler en fait des premiers socialistes. En fait, les premiers socialistes, c'est une expression qu'on commence à beaucoup utiliser maintenant, mais qu'on n'utilisait pas trop avant. Parce que les premiers socialistes... Comment ?
Il y a Benoît XVI.
Oui, oui, oui. Laissez-moi deux secondes le temps d'installer ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire du MSN devant vous. Oui, je disais, donc les premiers socialistes, c'est une expression qu'on utilise de plus en plus maintenant, mais en fait, c'est pour désigner un ensemble de personnes qu'on désignait jusqu'à il n'y a pas très longtemps très largement sous le terme de socialiste utopique. Donc vous comprendrez aisément qu'une intervention sur les socialistes utopiques a tout à fait sa place, enfin j'espère, dans un festival qui porte pour titre « Lutte, espérance, utopie, j'ai rêvé d'un autre monde ». Mais moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que les socialistes utopiques, si j'arrive à trouver le... Voilà, c'est bon, le mage. Où il est le mage ? C'est Shift, voilà. C'est que les socialistes utopiques, ils n'ont pas fait que rêver d'un autre monde, mais aussi et surtout, ils l'ont mis en pratique. Donc ça, c'est l'objet de mon intervention, je vais bientôt y arriver. Oui, j'affiche le site de la Bibliothèque universitaire de Poitiers parce que je vais appuyer mon intervention sur la bibliothèque virtuelle de l'Université de Poitiers qu'on a mis en place et qui présente des documents numérisés issus du fond du bois dont parlait David tout à l'heure et qui portent donc sur les premiers socialistes ou socialistes utopiques. Normalement, ça va marcher. ça marchait très bien tout à l'heure. Et voilà, de nouveau, Jean-François Copé. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça y est, c'est bon. Donc, les socialistes, les premiers socialistes dont je vais parler, ce sont donc les socialistes de la période à peu près 1830-1870. Et ces socialistes, cette période est en général considérée par les historiens, la plupart du temps, comme l'âge d'or de l'idéologie socialiste, c'est-à-dire comme une période où on privilégiait la pensée plutôt que le reste. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore d'organisation ouvrière ni de parti politique socialiste, comme ce fut le cas par la suite. Et donc, on estimait que la force de ces socialistes-là résidait dans leur pensée. Or, cette manière assez répandue de les concevoir, uniquement comme des socialistes d'idées, est complètement contrecarrée par des travaux passés et surtout par des travaux récents qui se multiplient et qui mettent en valeur les nombreuses réalisations pratiques que ces penseurs et ces militants ont mis en œuvre à cette époque. Alors, de plus, dans l'histoire du socialisme, la période 1830-1870 correspond aussi à la première grande phase historique de ce courant de pensée, habituellement désigné donc sous le terme de socialisme utopique, expression utilisée en particulier par les marxistes pour montrer la différence qualitative qui séparait leur doctrine des précédentes. Il y a vraiment une rupture. Cette vision des choses passe elle aussi sous silence le foisonnement d'expériences qui ont été tentées, le plus souvent sous forme d'associations, de coopératives, mais aussi de communautés ou de colonies d'immigrés, et qui montrent que ces mouvements étaient en vérité, ancrés dans la réalité de l'époque. Et ils n'étaient pas seulement ni des socialistes de pensée, ni seulement des socialistes utopiques, parce qu'ils appuyaient leurs idées sur des doctrines qui avaient le caractère d'utopie, mais c'était aussi des gens très très ancrés, très acteurs de la réalité de l'époque. Donc ce qui caractérise les socialismes de cette période, c'est leur démarche basée sur l'expérimentation de leurs idées. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et leur mise en pratique immédiate, et non pas dans un avenir éloigné. À part quelques exceptions, parce que bien évidemment, ce que je dis, c'est général sur tous les socialistes de cette période, mais il y a des exceptions. Les penseurs et les militants de cette époque, donc en général, avaient une conception graduelle du changement social, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un changement brutal qui était attendu, mais on pensait à une évolution progressive vers un changement de société. Et chez eux, c'est le désir de mettre en application les doctrines qui étaient récurrents et très importants. Et en fait, c'est dans ces expériences et dans ces réalisations qu'ils plaçaient leur espoir, alors on peut aussi parler d'espérance, de changer radicalement la société. Donc je vais essayer de vous développer ce thème, leur démarche, expliquer pourquoi ils avaient cette démarche et quelles ont été ces réalisations. Et je vais m'appuyer, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la bibliothèque virtuelle qui recense des documents numérisés du Fonds du Bois et qui porte en grande partie sur les expérimentations sociales des premiers socialistes. Alors, l'intérêt pour les expériences et les réalisations des nouvelles théories sociales chez l'ensemble des militants socialistes s'explique, pourquoi donc ils ont cet intérêt, mais ça s'explique par les conceptions qu'ils avaient de la lutte et qu'ils tiraient des expériences récentes de l'histoire. Il faut se resituer, donc le mot socialisme, en fait, il apparaît en 1830, c'est en général, même s'il y a... Des petits désaccords là-dessus chez les historiens, mais globalement, on situe la naissance du socialisme en 1830, de l'expression et du socialisme, donc en 1830. Donc, ils tirent leur leçon de l'histoire, et c'est à partir de leur conception qu'ils ont de l'histoire qu'ils adoptent cette démarche. Parce que, à part les défenseurs du combat insurrectionnel, qui sont quelques-uns comme les babouvistes, les néo-babouvistes ou les blanquistes, l'ensemble des réformateurs sociaux récusaient l'idée d'un changement brutal de société. Ils n'étaient pas révolutionnaires, contrairement à ce que souvent on croit, dans le sens où ils ne comptaient pas sur une modification brutale de la société provoquée par un événement violent. Ils étaient contre la violence, contre le fait d'utiliser la violence pour changer la société. Ils tiraient leurs propres leçons, en particulier de la Révolution française, et ils renonçaient à considérer que l'avènement d'une société nouvelle nécessitait l'utilisation de la violence. Ils étaient favorables, au contraire, à une évolution progressive de la société qui permettait de faire l'économie d'une guerre civile. Alors, je vous donne un exemple. En fait, bon, quand je parle de ces premiers socialistes, je vais vous citer une citation de 1881 parce que c'est un fourriériste et il est vraiment dans le prolongement de cette façon de voir. En 1881, il y a un fourriériste qui s'appelle Étienne Barat et qui est auteur d'une brochure sur la fondation d'une colonie sociétaire. Et il explique que la démarche des socialistes collectivistes révolutionnaires, c'est-à-dire les autres, ceux qui ne sont pas pour sa démarche, et qui prônent la prise du pouvoir par la violence et la dépossession du sol et des usines, dresserait une partie de la population contre l'autre. Pourtant, d'après lui, une fois que la société serait changée par la révolution, eh bien, de toute façon, on aboutirait forcément à la création de la commune sociétaire, parce que lui, c'est le type de société à laquelle il croit, vers laquelle il veut qu'on aille, et il est persuadé que c'est ce qui se passera après le changement de société. C'est pourquoi il préconise le mode transitoire, donc cette espèce de méthode progressive de changement social, et la réalisation de projets conçus en vue d'une application immédiate qui, au contraire de la méthode des révolutionnaires, conduirait à la mise en place de ce type de société par une voie pacifique, ça c'est très important, et constructive, sans besoin d'exproprier la bourgeoisie. Parce qu'il faut bien voir aussi que chez ces premiers socialistes, on n'a pas forcément, on a quand même beaucoup de gens qui se recrutent dans les classes bourgeoises et autres. C'est pas, il y a des ouvriers, il y a des classes populaires, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Donc, il ne croit, voilà, ça c'est pour le premier point. Il ne croyait pas non plus au renouveau par les moyens politiques et institutionnels. C'est-à-dire, d'une part, il ne croyait pas à un changement brutal de société. Il ne voulait pas de violence. Mais il ne croyait pas non plus aux moyens politiques ou institutionnels, mais plutôt il croyait à des modifications économiques et surtout sociales pour changer la société. Alors, une citation de Charles Fourier, « La politique, volcan de constitution et de lois inextricables, ne sait qu'augmenter les sources de chicanes et de controverses. » Ça, c'est juste pour illustrer. Une autre citation d'un fourriériste, Nous avons assez répété que ce n'était pas le monde qu'il fallait convertir, que ce n'était pas le pouvoir qu'il fallait conquérir, mais que l'œuvre à faire était la mise en pratique de l'association domestique agricole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le pouvoir, on ne cherche pas à faire de la politique, on veut tout de suite mettre en pratique les choses, nos conceptions pour aller vers le changement social. Alors, il faut noter que cette façon de voir les choses valait aussi pour une frange des ouvriers, en particulier des ouvriers lettrés, qui commençaient alors à s'organiser et à se doter d'organes de propagande et à créer des associations. Par exemple, les rédacteurs du journal L'Atelier, qui était le journal des socialistes chrétiens, ne cessaient de promouvoir la mise en place d'associations ouvrières et de soutenir dans leurs colonnes les sociétés de secours mutuels. Pour eux, cette manière de lutter par la pratique était une façon de se prendre en charge et de cesser de s'en remettre à des membres des autres classes sociales chargé de les représenter. Le mouvement ouvrier des années 40, bon, ça, en fait, ça, c'est une idée que je reprends à Maurice Agulon, qu'il a vraiment développée dans ses ouvrages. Le mouvement ouvrier des années 40, d'une manière générale, renonçait ainsi aux effusions de sang, d'une part, et à la lutte du pouvoir d'État, et découvrait, c'est ça qui est important, leur propre force en s'organisant. Là, je vais citer Agulon. L'énorme révélation des années 40, c'est que les ouvriers, sinon en masse, du moins en nombre appréciable, parce qu'il ne faut pas non plus croire que c'est tous les ouvriers, peuvent jouer d'autres rôles que celui de fantassins des sociétés secrètes républicaines ou celui d'associés d'un compagnonnage désuet. Ils lisent, ils écrivent, ils s'organisent, ils s'associent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les bases. Pourquoi les premiers socialistes... sur quel fondement s'appuie cette volonté chez les premiers socialistes de vouloir préparer le changement de société par l'expérimentation. Mais quels étaient les objectifs concrets sur le moment de ces réalisations ? Eh bien, il y en avait plusieurs, il y en avait même pas mal, et c'était très, très, très chargé de sens pour eux. Alors, tout simplement comme premier objectif, on pourrait dire, le fait d'organiser des réalisations pratiques, de mettre en place leurs idées, c'était tout simplement un moyen de propagande comme un autre. C'était un moyen de diffuser les idées. Ils pratiquaient beaucoup la propagande par les journaux, beaucoup, beaucoup par la propagande orale, énormément. Ils faisaient beaucoup de conférences, ils intervenaient pas mal. C'était un moyen de propagande très important à l'époque. Mais aussi les chansons, les poésies, ils organisaient des banquets. Mais les réalisations pratiques, c'était exactement, enfin, c'est eux qui le disent dans leur texte, hein, c'était aussi un moyen pratique pour diffuser leurs idées. Alors, ces essais étaient aussi des manières concrètes de faire du prosélytisme, forcément, de gagner des individus à la cause du progrès social par l'exemple des pratiques concrètes. Ils étaient convaincus, en effet, qu'en mettant en place les expériences sociales, les individus auraient irrésistiblement envie de les rejoindre et que ces réalisations essaimeraient. Ils croyaient en la force de l'expérience et de l'exemplarité. Alors là, vraiment en particulier chez les fourriéristes, on trouve énormément de textes où ils sont vraiment convaincus qu'ils vont démarrer une association, une coopérative, ils vont mettre en place une petite communauté, et ils inviteront plein de gens à venir voir, et forcément, tout le monde aura envie de faire pareil. Et d'ailleurs, ils invitent beaucoup ils lancent sans arrêt des appels à financer ces expériences parce qu'ils sont vraiment convaincus que tout le monde va les suivre, quoi. Donc c'est vraiment un moyen de prosélytisme et puis de gagner les individus à leur cause. Autre objectif, c'est aussi préparer les individus au changement de manière pacifique. On revient toujours sur cette notion. En effet, pour eux, les réalisations avaient à leurs yeux un caractère pédagogique. C'était aussi pour préparer les gens à la future société, puisqu'on commençait à mettre en place un aspect. C'était pas, on ne créait pas complètement la société. Ce qu'on mettait en place était un des aspects des doctrines qui avaient été élaborées, mais pas la société tout entière, bien évidemment. Donc, en fait, c'était une manière de faire de la pédagogie et préparer les gens au changement. Autre objectif, et ça c'est aussi très très important, et c'est pas quelque chose qui est forcément connu, enfin en tout cas c'est pas quelque chose qu'on dit beaucoup, ils espéraient aussi de cette manière prouver par les faits la justesse des idées. Ce que je veux dire, c'est que en fait il y avait une dimension expérimentale très très forte dans leur réalisation. C'est-à-dire que pour montrer la validité de leurs idées, Ils les mettaient en pratique et ils voulaient leur donner une légitimité scientifique. Ils voulaient expérimenter leurs théories, les tester, mais y compris en les confrontant à d'autres théories. C'est-à-dire qu'ils mettaient en place aussi ils proposaient souvent en particulier toujours les fourriéristes, mais pas seulement, de mettre en place des champs d'asile où ils confronteraient différents types de sociétés. Ils les expérimenteraient, ils les compareraient, puis les gens se réuniraient, puis ils décideraient ce qu'on retient. Voilà. Donc ça, il y avait aussi cette dimension expérimentale qui était très importante. Bon, là, je fais quand même des résumés, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Mais on trouve des textes là-dessus, sur le fait qu'ils veulent vraiment expérimenter, y compris en confrontant, par exemple, les fourriéristes sont tout à fait prêts à confronter leurs théories avec les communistes, et pourtant leurs conceptions sont vraiment très différentes, avec les conceptions proudhoniennes, etc. Donc, ils développaient, dernier objectif, pardon, c'était aussi et surtout le moyen de commencer ici et maintenant le changement social et de préparer progressivement la transformation de la société par sa mise en place graduelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme une espèce de premier cran vers le changement social. C'était, on commence tout de suite maintenant par un petit bout, mais on commence déjà à faire changer la société. Donc, ils développaient l'idée de la transformation générale de l'organisation de la société par le bas, dans une logique de patience et de pacifisme. Les réalisations ne représentaient pas à leurs yeux la mise en pratique stricto sensu de leur théorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les moyens destinés à accomplir la période transitoire qui devait séparer le vieux monde de la société future. C'était les instruments de la période transitoire située entre les sociétés actuelles et futures. Alors cette notion de période transitoire aussi, elle est très importante, parce que souvent quand on parle des socialistes utopiques et quand on parle des communautés utopiques, on s'imagine que du jour au lendemain, ils ont voulu, ils se sont dit allez hop, on s'installe dans un coin des États-Unis, on met la société nouvelle en place tout de suite. Or, la plupart du temps, c'est faux. Ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est en fait ce qu'ils appellent la période transitoire. Et dans les textes de gens comme Cabé, comme Fourier et d'autres, eh bien, il y a la plupart du temps des passages qui sont consacrés à la période transitoire, c'est-à-dire la période intermédiaire entre le vieux monde, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, et la société idéale future vers laquelle on va, la société entre guillemets utopique. Mais il y a cette notion de période transitoire qui est vraiment récurrente et qui est très importante. Par exemple, Cabé, à la fin de son ouvrage « Voyage en Icarie », consacre un gros chapitre sur cette période transitoire, et il va jusqu'à préciser que cette période durera 50 ans, il explique comment ça va se passer, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent oublié ou occulté quand on parle des socialistes utopiques. Je peux citer justement un texte des fourriéristes sur la notion de période transitoire. Alors là, Fourier, vraiment, il écrit énormément de... Il a écrit presque des bouquins entiers sur la période transitoire, qu'il définit comme quelque chose de très progressif, très très en détail. Le régime transitoire est essentiellement un régime de garantie sociale. C'est le régime des fondations approximatives, celles qui doivent peu à peu conduire la société jusqu'à l'ordre futur. La société garantiste est la condition et la préparation de l'harmonie sociétaire. Donc ça, c'est un peu du jargon fourriériste. Le garantisme, en fait, c'était le nom que donnait Fourier justement à la période transitoire très complexe et très détaillée qui donc sépare le monde ancien du monde nouveau souhaité. Voilà. Alors maintenant, je voudrais un petit peu vous parler de ces expériences donc, qui ont été mises en place et qui sont extrêmement, extrêmement nombreuses. Donc, elles se déclinaient sous des formes très, très variées. Donc, on a beaucoup... on connaît surtout les communautés, comme celle du communiste égalitaire Cabé, qui est donc parti en 1848 créer les communautés d'Icarie aux États-Unis. Il y a une personne que vous connaissez peut-être sur Poitiers qui s'appelle Véronique Mendès, qui fait sa thèse sur Icarie. Et donc, les communautés icariennes se sont succédées parce qu'il y a eu des scissions, etc. Mais ça a duré à peu près 50 ans. Bon, un autre exemple, la communauté de Pierre Leroux, qui était un socialiste, à Boussac, dans les années 1844-1848. Le phalanstère de Citeaux, 1841-1846. Des communautés pour enfants, enfin bon, il y a eu pas mal d'expériences comme ça. Mais ce qu'il y avait aussi beaucoup, et qui à ce jour n'ont toujours pas été recensées tellement elles ont été nombreuses, bien qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages qui portent là-dessus, ce sont les nombreuses associations de production, associations de consommation, associations de crédit, etc., qui ont vu le jour et qui faisaient partie de ces réalisations pratiques destinées à préparer le changement social. Donc c'est là qu'on voit que, enfin on voit que autour de ces expériences, ces expériences étaient vraiment investies d'un immense pouvoir de préparer le changement de la société. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on sait quand on parle des associations de production, des coopératives au 19e siècle. Je vous parlerai par exemple de Proudhon, dont on ne sait pas forcément que c'était aussi un réalisateur, parce que Proudhon a énormément écrit, c'était surtout un théoricien. Mais lui aussi, il était pour la réalisation pratique. Il a en particulier monter un projet de réalisation qui s'appelait la Banque du Peuple. Il a déposé les statuts de cette association en 1849 et il a recruté en 6 semaines 20 000 souscripteurs pour dire quand même que bon, il y avait des gens qui suivaient l'affaire. Et par cette nouvelle organisation du crédit, selon les principes du mutualisme proudhonien, il comptait apporter, selon lui, carrément la solution du problème social. Ce que je veux dire, c'est que quand on reprend les textes que tous ces auteurs écrivent pour présenter leur association, leur organisation de crédit, des choses comme ça, on voit vraiment concrètement à quel point derrière ces choses qui peuvent paraître marginales à nos yeux, en fait, ils ont carrément le projet de résoudre carrément le problème social. Et justement, Proudhon, après ce projet de Banque du Peuple, a enchaîné sur un projet d'exposition perpétuelle qui, d'après lui, pouvait entraîner carrément donc, la modification profonde de la société. Alors, je vous cite ce que dit Proudhon. Avec l'exposition perpétuelle, nous aurons la circulation gratuite, le commerce honnête et véridique, le bon marché dans la mesure du prix de revient, L'aristocratie féodale par terre, le droit au travail garanti, la classe moyenne sauvée, la liberté et la discussion, trois petits points. Voilà, c'est pour vous dire quand même qu'à partir d'une réorganisation du crédit, vraiment derrière, il place beaucoup d'espoir ou d'espérance selon l'acception du mot qu'on retient. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, je vais donc vous faire une petite démonstration de la bibliothèque numérique qui porte sur les premiers socialistes. Et dans cette bibliothèque numérique, on a commencé à numériser les ouvrages des fourriéristes parce que c'est un fonds qui est très important à la bibliothèque universitaire. Et voilà. Donc, juste pour petit rappel, Charles Fourier, c'est l'auteur d'une doctrine sociale assez originale qui a quand même marqué le socialisme du 19e siècle. Sa théorie partait d'une critique féroce de la société de son époque. Il a énormément écrit pour critiquer la société de son époque. Et cette société, d'ailleurs, il l'appelle la civilisation. Il y oppose un projet social qui s'appuie sur une nouvelle organisation des relations individuelles basée sur l'exaltation des passions humaines. Selon lui, l'attraction commande le monde physique, comme l'a démontré Newton, mais aussi le monde social. Il transpose cette loi dans les rapports humains et élabore une organisation sociale constituée d'individus aux caractères différents et complémentaires, regroupés par combinaison des passions et qui mène à ce qu'il appelle l'harmonie universelle. Donc il propose une transformation radicale de la société qui vise non seulement l'affranchissement du producteur, mais aussi la libération des désirs des individus. L'organisation sociale proposée par Fourier se base sur la phalange ou le phalanstère, dont le fonctionnement annonce celui de la société future. Donc, il réunit 1620 personnes, donc c'est toujours quelque chose de très détaillé chez Fourier, qui pratiquent des activités sociales censées laisser s'exprimer librement leurs passions et leurs penchants naturels. Les phalanstères sont des groupements de production et de consommation dans lesquels chaque phalanstérien pratique plusieurs métiers par alternance, ce qui lui permet de développer toutes ses facultés. Les revenus sont répartis entre le capital, le travail et le talent. Donc le passage de la société actuelle au régime sociétaire, c'est-à-dire au régime harmonieux de Fourier, selon lui, doit se faire progressivement et pacifiquement par différents stades, c'est la fameuse phase transitoire, et par la création du premier phalanstère qui doit susciter par contagion la création d'autres phalanstères conduisant à l'avènement du régime sociétaire. Donc de fait, le changement social chez Fourier ne se présente pas comme un moment brutal, donc ça je redis, mais comme une évolution passant par différents stades transitoires, en particulier celui du garantisme. Selon lui, la nouvelle organisation sociale ne sera pas créée brusquement, mais l'idée s'imposera progressivement par la contagion des succès de son expérimentation, c'est-à-dire qu'il faudra que ce soit d'abord expérimenté. Mais la doctrine, enfin ça c'est une dimension très importante, parce que la doctrine fourriériste se présente comme une science sociale dont la préoccupation majeure est l'expérimentation de ses propres théories. La volonté de mise en application fait partie intégrante de sa doctrine. Ça c'est quelque chose qu'un sociologue qui s'appelle Pierre Merclé, qui travaille à l'École normale supérieure de Lyon, a très bien développé dans une thèse qui est disponible d'ailleurs sur le web, où il démontre que vraiment toute la théorie de Fourier, qui est donc quand même l'auteur utopiste par excellence, c'est une science sociale en fait, et c'est une théorie qui s'appuie vraiment sur la dimension expérimentale. C'est vraiment quelque chose qui se base sur le côté science sociale, quoi, sur le côté expérimental. Donc Fourier multiplia les démarches auprès des gouvernements et des notables pour financer la première expérimentation des phalanstères. C'est-à-dire que non seulement il essayait de recruter des gens pour venir expérimenter les idées, mais il n'a pas hésité à solliciter de nombreuses fois des politiques. Par exemple, à un moment, il a écrit à Thiers, qui était en 1833, parce qu'il était ministre de l'Intérieur, pour lui demander de financer le premier phalanstère. Et il a participé lui-même au premier essai de phalanstère à Condé-sur-Vègre. Donc, je vais vous montrer justement quelles étaient toutes ces expériences. Ouais, là, je vais un petit peu sauter ce que j'avais écrit, parce que sinon, ça va être un peu long. Juste une petite citation d'un auteur justement qui revient sur ces institutions transitoires et qui écrit « Ces institutions transitoires peuvent se fonder immédiatement dans toutes les campagnes. Elles serviront d'engrenage entre l'état actuel qui est l'insolidarité des intérêts et le régime futur qui sera le crédit généralisé et l'association intégrale et en même temps de terrain neutre où les disciples des réformateurs sociaux pourront se donner la main. » C'est là qu'on voit donc ce désir d'expérience et puis aussi de réunir tous les réformateurs sociaux, quels qu'ils soient. Donc, pour vous montrer un petit peu la variété de ces expériences, je vais commencer par la colonie de Condé-sur-Vec, qui est quelque chose d'assez connu parce que c'est la colonie qui a été créée par Fourier lui-même. Fourier est mort en 1837, mais cette colonie a été créée en 1833 et donc il y a participé. Mais bon, il faut bien dire que c'est quand même une succession d'échecs. Elle a échoué. Il y a eu de nombreux projets qui ont échoué, mais bon, il y a quand même eu des expériences à des moments. Donc il y a eu d'abord un projet de phalanstère qui a duré 2-3 ans, mais qui a échoué. Ensuite, ça a été transformé en phalanstère pour enfants en 1834, sans grand succès, il faut bien le reconnaître. Puis le terrain de Condé-sur-Vègre où se passaient ces expériences a été un petit peu délaissé, mais en 1846, on y créa une association d'ouvriers cartonniers. Ensuite, en 1847, et c'est le sujet de ce livre qui est sur la bibliothèque numérique, en 1847, on y a créé une école d'expérimentation sociale. Donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un lieu où les gens se réunissaient et venaient essayer de mettre en commun leur désir d'expérience et mettre en pratique surtout à différents niveaux. Ça n'a pas l'air de bien marcher là. Ah si, ça y est. Voilà. Alors ensuite, en 1860, c'est une société civile immobilière qui a été constituée. Et là, c'était plutôt une association au niveau du logement et de la location. Donc c'était une espèce de gestion collective des appartements et du fonctionnement collectif du logement, quoi. Voilà, et ça a fonctionné selon des principes fourieristes. Ensuite, ça a été transformé en ce qu'on a appelé un ménage sociétaire. Les familles des un ménage sociétaire, c'est un terme qui relève typiquement de la terminologie fourriériste. En 60, c'est donc un ménage sociétaire qui a été créé. Les familles des sociétaires de l'époque, ensuite, n'ont jamais cessé de se transmettre les actions de cette association qu'on appelait le ménage sociétaire. Et ce qui se passe, c'est que le temps a passé et ils ont toujours continué à le faire, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le ménage sociétaire de Condé-sur-Vègre existe encore, c'est pour ça que je vous en parle. Ça s'appelle La Colonie et ils ont un site d'ailleurs qui doit être indiqué là, normalement. Et ils existent encore, ce sont des descendants des fourriéristes. Bon, c'est pas franchement un phalanstère, faut pas rêver non plus. C'est surtout en fait un endroit où ils se réunissent les week-ends et puis ils cultivent un peu la mémoire du fourriérisme. Ils ont une bibliothèque, ils organisent des colloques. Mais bon, c'est pour dire que cette dimension-là, c'est toujours transmise entre les familles de descendants des fourriéristes. J'espère qu'il y a le lien là. Oui, biographie. Mais je crois que ça a été changé il n'y a pas longtemps. Si, voilà. Donc ça, c'est le site de la colonie de... Voilà, ça a été construit dans les années 40. Voilà. Vous pourrez aller voir. Colonie de Condé-sur-Vègre.
Qu'est-ce qu'il y a ? Non, la nature à une heure de Paris.
Voilà. C'est une... Oui. On est quand même assez loin de... des objectifs poursuivis par Fourier au début, mais bon. Mais bon, je pensais que c'était quand même intéressant de le signaler. Alors ensuite, je vais vous montrer un ouvrage qui s'appelle « Socialisme pratique ». C'est un ouvrage d'un auteur qui a énormément écrit justement sur cette dimension expérimentale de la théorie de Fourier et sur les réalisations fourriéristes. Donc, l'ouvrage qui est numérisé ici et que vous pourrez consulter de chez vous s'appelle donc « Socialisme pratique ». Il contient plusieurs choses, en particulier, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas très rapide, mais il contient une réédition d'un texte de 1839 sur les fruitières du Jura. Alors, les fruitières du Jura, c'était des coopératives de fabrication de gruyères qui remontent à il y a très longtemps, à la fin du Moyen-Âge, et qui, selon l'auteur, constituent une des premières formes d'organisation coopérative du monde agricole. Et en fait, les fourriéristes se sont inspirés des fruitières du Jura pour développer leur conception de la coopération et de l'association. Donc voilà, là, il y a un texte sur les fruitières du Jura. Ça, c'est pas normal, ça. Allez, voilà. Bon, tout ça, c'est surtout pour vous montrer un petit peu la variété aussi du type de réalisation. Voilà. Là, c'est un petit peu lent. Alors, un texte également sur un système de crédit sur gage des denrées ou entrepôts agricoles. C'est un autre aspect de l'association et de la coopération. Normalement, ça marche plus vite. C'est ce que je dis toujours quand je fais des présentations, parce que ça marche toujours plus lentement les jours des présentations. En plus, c'est pas la bonne page. Bon, ça fait rien, on va sauter là-dessus. Voilà. Donc, si on continue dans cet ouvrage, il y a également les statuts d'une association fraternelle qui est une véritable coopérative moderne avant l'heure. C'est un modèle qui a été beaucoup réutilisé ensuite par des coopérateurs. Parce que l'auteur, comme je vous disais, Vladimir Gagneur, a joué un rôle très important dans le développement des théories de la coopération en France. Et en fait, cet ouvrage et toute l'œuvre de Vladimir Gagneur permet d'établir une filiation entre le fourriérisme et le mouvement coopérateur, justement, et l'économie sociale en général. Donc, voilà. Autre exemple de réalisation, un établissement d'hôtel sociétaire. Donc ça, c'est un exemple de coopération en matière d'habitation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, ce sont les statuts qui sont manuscrits. Autre exemple encore, des projets pour enfants, parce que, comme beaucoup de gens à l'époque, beaucoup de théoriciens de l'époque pensaient qu'on pouvait, entre guillemets, utiliser les enfants pour préparer le changement social. Donc, il y a eu beaucoup de projets, puis il y a eu des expériences faites avec des enfants, parce qu'on considérait que les adultes avaient l'esprit vicié, ils étaient quand même déjà corrompus par la civilisation actuelle, et qu'en travaillant à la préparation du changement social sur des enfants qui avaient l'âme vierge et neutre, on risquait d'arriver plus facilement à nos fins. Donc, il y a eu, enfin là, c'est aussi un résumé, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais quand même, l'idée y était de faire des expériences avec des enfants pour préparer surtout les générations à venir et que pour peupler les futures phalanstères et les futures communautés, eh bien, il fallait préparer les enfants, les futurs adultes de la société idéale, quoi. Donc là, on a différents projets de phalanstères enfantins. Voilà, donc là par exemple un projet d'institut sociétaire pour 400 enfants. Donc ça, Fourier avait eu l'idée de faire ça en 1833, quand, comme je disais tout à l'heure, quand le phalanstère de Condé-sur-Vègre a échoué, il a transformé son projet en projet de phalanstère pour enfants. Ensuite, un projet de défense des enfants trouvés. Parce que dans leur volonté de trouver justement des enfants neutres, donc pas corrompus, c'était en plus, bon, c'était quand même un problème social très important à régler à l'époque. la question des enfants trouvés. Il y avait énormément d'enfants trouvés à l'époque. Donc, il se proposait de créer des asiles pour enfants trouvés, où il les éduquerait à la façon fourriériste. Voilà. Donc, autre forme d'expérimentation, et ça, c'est ce qu'on a surtout retenu, bah, ce sont les communautés et les colonies. Donc, de manière générale, les fourriéristes n'étaient pas contre la colonisation. Et donc, ils ont proposé d'aller créer des fermes sociétaires. Par contre, ils étaient pour une colonisation sans armes, mais une colonisation civile et pacifique, c'est toujours... Et ils se disaient justement qu'aller, par exemple, en Algérie, créer des fermes sociétaires, eh bien, ça pouvait aussi être un moyen de... Ben, encore une fois, de diffuser leurs idées et puis de préparer le changement avec les indigènes et avec des fourriéristes. Enfin, en réunissant des fourriéristes de la métropole et des indigènes, ils pourraient préparer le changement social là-bas. Donc, ils ont proposé de créer des fermes sociétaires et ils ont créé une colonie, par exemple, à Sig. Ils ont obtenu une concession et ils sont allés créer une colonie à Sig, dans la plaine de Sig, du Sig. En Algérie. Bon, c'est une colonie qui a duré pas très longtemps, qui a fonctionné pendant 5 ans selon un système fourriériste, mais qui ensuite a très vite évolué vers... qui a continué pendant pas mal d'années, mais avec un système de salariat qui n'avait plus rien à voir avec le fourriérisme. Voilà. Donc, autre colonie qui est très connue dans l'histoire du fourriérisme, c'est la colonie de Réunion au Texas, parce qu'elle a été menée par le principal disciple de Fourier qui s'appelait Victor Considérant. Elle n'a pas fonctionné très longtemps non plus parce que ça a été un petit peu une... Bon, il y a eu beaucoup de problèmes aussi. C'est vrai qu'ils étaient quand même... Avec le recul du temps, on a l'impression qu'ils étaient assez naïfs dans le sens où ils allaient s'installer dans des prairies texanes où il y avait chaque été des invasions de sauterelles, chaque hiver des... Enfin, c'est absolument incroyable tous les problèmes qu'ils rencontraient. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'arrivaient jamais à le prévoir, quoi. Alors que, par exemple, pour cette colonie du Texas, ils sont donc partis en 1853 pour trouver les lieux. Et il faut savoir qu'ils sont allés s'installer quasiment à l'endroit où, en 1848, Cabé était allé s'installer aussi. Enfin, ou plus exactement, il avait envoyé des Icariens s'installer, il n'y était pas allé lui. Et ça avait été un véritable fiasco. Il y avait eu une cinquantaine de morts du choléra. Enfin, ça avait été une catastrophe, mais ça ne les a pas empêchés d'y retourner, quoi. Bon. Mais il y a eu aussi tout un tas d'autres problèmes liés aussi à la difficulté de mettre en place un fonctionnement fourriériste, il faut bien le dire aussi. Il y a quand même eu entre 120 et 300 personnes qui sont passées dans ces colonies, donc c'est pas négligeable dans l'histoire du fourriérisme. Bon, puis il y en a eu encore d'autres, je ne vais pas toutes les passer. Celle qu'il faudrait aussi qu'on cite peut-être, même si elle n'est pas encore mise dans cette... bibliothèque. Je précise d'ailleurs entre parenthèses que cette bibliothèque, c'est une bibliothèque virtuelle évolutive, c'est-à-dire qu'on met régulièrement des nouveaux documents. Ce que je vous montre là, c'est pas du tout quelque chose de fini, d'abouti. On rajoute des choses. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que je vous montre, mais bientôt il y aura d'autres documents. Donc faut retourner voir les choses qu'on rajoutera. Il y a une expérience qui est très très connue, c'est celle qui a duré le plus longtemps, c'est le familistère de Guise, qui a démarré en 1859 donc à Guise, qui a été mise en place par Jean-Baptiste Godin, et qui a essayé de mettre, dans une certaine mesure, je dis dans une certaine mesure parce que ça reprenait beaucoup de choses des idées fourriéristes, mais pas tout, bien sûr, et Godin ne s'en est jamais caché, mais au niveau des conceptions économiques et sociales, Godin a repris la majorité des idées fourriéristes, et il a essayé de les mettre en place à Guise. Il faut quand même savoir que le familistère de Guise a fonctionné sous forme d'association puis de coopérative jusqu'en 1968. Donc ça, on peut dire que c'est la réalisation qui a le plus duré. Voilà, ça c'était pour vous donner des exemples de toutes ces expériences. Donc avant de finir, je voudrais juste parler d'une question qu'on peut se demander, c'est On peut se demander effectivement pourquoi l'exigence expérimentale et les mises en application pratiques des socialistes dont je viens de vous parler a été quand même globalement niée par les commentateurs et souvent oubliée par les historiens, même si aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais quand même pendant longtemps ça a été oublié. Alors une des réponses qui vient à l'esprit, et c'est souvent la réponse qu'on trouve dans les ouvrages sur ces socialistes, c'est que l'histoire des expériences socialistes, c'est l'histoire de leurs échecs. Comme j'ai pu vous le montrer, bon, quand même, on voit bien que toutes ces expériences, souvent, elles ont été des fiascos. Mais il faut aussi quand même noter que, bien souvent, ces expériences n'ont pas été menées loin, tout simplement à cause de la répression que les protagonistes ont subie. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de... J'en ai pas parlé ici, mais il y a beaucoup de socialistes qui ont mis des associations en route et qui se sont fait tout simplement arrêter par la police à certaines périodes de l'histoire, en particulier sous le Second Empire. Voilà, donc je veux dire, les échecs n'étaient pas forcément liés à des problèmes de mise en place des idées. Mais pourtant, si on envisage cette question des échecs et si on se resitue dans l'époque, on voit que les essais pratiqués, ici et là, ne représentaient pas, en fait, pour les protagonistes, un aboutissement, mais un moyen, comme j'espère vous l'avoir montré, une étape vers la nouvelle société liée à la conception graduelle du changement social et à un certain esprit aussi pragmatique. Par conséquent, le fait de voir échouer leurs expériences n'avait pas une signification d'une grande gravité, comme pouvait l'avoir l'échec d'un changement global de société. C'est-à-dire qu'en fait, comme de toute façon, pour eux, c'était pas, ils n'étaient pas en train de mettre tout de suite en place la société future, c'était une gravité relative quand il y avait un échec. Et au contraire, si on se replonge dans les textes, on se rend compte que les insuccès des différentes entreprises semblent avoir agi sur de nombreux militants socialistes comme un stimulant et un moteur pour aller toujours plus loin dans la mise en pratique des idées. On a pu constater à de nombreuses occasions que non seulement l'échec d'une expérience ne provoquait pas de dénonciation publique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans les revues, dans les organes de presse, des dénonciations, oui, on n'a pas réussi et tout, mais au contraire que les militants, par la suite, continuaient de plus belle à créer de nouvelles communautés, à militer aussi, à reconvertir leur énergie dans d'autres moyens de lutte, comme militer dans la Première Internationale, participer à la création des premiers syndicats. Par exemple, les gens qui sont allés créer des colonies fourriéristes aux États-Unis, il y en a une très très grande partie qui sont restés aux États-Unis et qui ont participé à la création des premiers syndicats états-uniens. Alors, voilà, c'est ce que je viens de dire et je l'avais écrit. L'échec de la colonie fourriériste de Réunion au Texas dont je viens de vous parler fut pour les participants une simple péripétie qui stimula plus qu'il ne contraria leur volonté d'entreprendre. Et on retrouve, et très concrètement, on retrouve au sein de cette colonie d'anciens membres d'autres sociétaires, c'est-à-dire dans la colonie du Texas, qui donc démarre en 1954, on trouve des anciens de la colonie du SIG qui se passait dans les années 40 et qui était donc en Algérie, et des anciens de la colonie du Palmitar, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui se passait au Brésil un peu avant. C'est-à-dire qu'ils faisaient des colonies au Brésil, ils faisaient des colonies en Algérie, ça échouait, et bien ils repartaient dans une autre colonie. Mais ce n'était pas quelque chose qui était vécu comme un échec terrible et qui faisait qu'ils allaient renoncer à leurs idées. Et donc ils viennent retenter leur chance et retenter leur chance de voir leurs idées se mettre en pratique. On voit même des membres d'écoles politiques adverses passer d'une expérience à l'autre. Par exemple, toujours dans la colonie de Réunion, parce qu'on a gardé beaucoup de sources sur les gens qui ont participé, on trouve des anciens colons de la colonie communiste icarienne de Cabé. Et pourtant, le communisme égalitaire de Cabé n'a franchement rien à voir avec le fourriérisme de Fourier, avec les conceptions fourriéristes. Donc, l'organisation de coopératives, d'associations ou de communautés était donc un moyen comme un autre de lutter, ni plus ni moins important que les autres pour la marche vers une évolution de la société. C'est en fait une sorte de pré-conclusion. Alors, comme conclusion, en revanche, je dirais que les expérimentations sociales immédiates, pratiques, représentent une démarche originale et typique de ces penseurs et militants, en tout cas selon moi. Beaucoup plus que le caractère utopique, c'est le caractère expérimental de leur démarche qui caractérise les premiers socialistes. Les expérimentations sociales de ces hommes et de ces femmes ne représentaient pas un simple fait anecdotique dans leur histoire, mais bien au contraire, elles occupaient une place centrale dans le processus de changement social qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Donc les phalanstères, les colonies ou autres communautés icariennes, au contraire des utopies du passé, devaient être réalisées dans l'immédiateté, ici et maintenant, en intervenant sur le quotidien. Ils plaçaient donc toutes leurs espérances, non pas dans un avenir éloigné et idyllique, comme on pense souvent quand on pense au terme d'utopie, non pas dans un bouleversement soudain du type du grand soir, mais dans des expériences immédiates et concrètes destinées à mettre en marche la transformation intégrale de la société. Voilà.
Donc, oui, on m'entend. Donc long exposé également avec de nombreux éléments. Alors je pense que là on va vraiment pouvoir lancer le débat. Je ne sais pas si la jonction, il y a des éléments qui de fait lient les deux communications. J'avais avant de vraiment lancer le débat dans la salle, j'étais absent un tout petit instant. J'aurais bien voulu que tu reviennes, Nathalie, sur le fond du bois en quelques mots, vraiment. Quelle est son origine? Comment se fait-il qu'on a un fonds de ce type-là à proximité dans la Vienne? Et presque, c'est une invitation à s'en saisir. Donc, si tu peux faire cela.
D'accord. Ben justement, en fait, c'est un petit peu écrit sous mes yeux, là, sur la première page de la bibliothèque. En fait, Auguste Dubois, c'était un enseignant de droit, des doctrines économiques et politiques à l'Université de Poitiers. Il est mort en 1935. C'était le directeur de la revue, je ne me rappelle plus, je dois l'avoir marqué quelque part, la revue d'histoire économique et sociale, je crois. En tout cas, c'est une revue qui existe encore et qui est dirigée par Pierre Chaunu aujourd'hui. Comment s'appelle cette revue? C'est la revue Histoire, Économie, Société. Et autrefois, elle s'appelait Revue d'histoire économique et sociale. Et il a fait partie des. Enfin, il y a eu deux directeurs et c'est un des deux directeurs. Donc, c'était un enseignant de la fac de droit de Poitiers et qui était collectionneur et complètement passionné par tout ce qui était théorie économique et politique. Il avait un fonds très très riche, 18e, 19e siècle. Et il a eu la très bonne idée de léguer tout son fonds à la bibliothèque universitaire. Et dans ce fonds, donc d'ailleurs, il y a énormément de choses, pour les gens qui s'intéressent à l'économie, il y a énormément de choses, enfin, il y a vraiment un fonds d'une grande richesse. Mais la particularité, c'est que donc, il y a un fonds, mais vraiment très, très riche sur le socialisme utopique. Il y a énormément d'ouvrages, d'ailleurs, en plusieurs exemplaires, enfin, avec différentes éditions. Il y a énormément de brochures. Bon, ça, c'est pas très original dans la mesure où, à l'époque, on publiait énormément de brochures. On a aussi beaucoup de périodiques, des journaux, des placards, etc. Et donc, ce fonds, il est assez original parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à la BNF, il y en a à Besançon. Mais ça, c'est vraiment un fonds important et très complet, surtout très cohérent et très complet. Donc, on a eu l'idée de le numériser. Et donc de créer cette bibliothèque virtuelle. Et la particularité de cette bibliothèque virtuelle, c'est qu'on ne se contente pas de mettre les documents numérisés en ligne avec une référence bibliographique, mais on a créé une arborescence et on fait comme une sorte de petite histoire des théories sociales illustrées par les documents numérisés. Donc là, on a mis en place des ouvrages sur le fourriérisme, mais ce n'est pas terminé. Bientôt, on mettra des documents sur Cabet et le communisme icarien. Mais il y aura aussi des choses sur Proudhon, sur les Saint-Simoniens, sur Pierre Leroux, etc. Bon, là, c'est un petit résumé rapide, avec plein d'index, plein de possibilités de recherche, y compris ce moteur libre-là.
Merci. Donc, pour des questions d'enregistrement, il faudra parler dans ce micro pour poser les questions et puis me le rendre, le cas échéant.
Pour une petite question complémentaire, je voulais vous poser la question suivante. Ne pensez-vous pas que le poids qu'ont eu les doctrines de Saint-Simon au niveau de la France, au niveau social et tout ça, n'ont pas occulté des gens comme Fourier et comme Cabet? C'est-à-dire, dans le quotidien des Français, quelque part, le rôle jouer par, disons, le côté pratique, la mise en pratique, je dirais, des idées de Saint-Simon. On n'a pas fait que les gens se sont beaucoup plus trouvés en phase avec, avec ces idées-là, en particulier lors de la création des canals de Suez et tout ça, plutôt que, qu'avec les idées de Fourier qui, ma foi, quelque part, sont restées de l'ordre, je dirais, de l'utopie.
Je vais un peu avoir du mal à répondre à cette question parce que franchement, ça demanderait réflexion. Mais il me semble que l'époque dont je parle, où il y a eu vraiment beaucoup de réalisations, l'époque des années 40, 50, 60, c'est quand même une époque où les fourriéristes avaient une audience assez importante. Et en fait, ce que je sais, alors je connais peut-être pas suffisamment la question du saint-simonisme pour répondre à votre question, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de saint-simoniens qui ont rejoint les fourriéristes. Ça, c'est vraiment, chez les fourriéristes, il y a énormément d'anciens. Par exemple, Jules Le Chevalier, par exemple, des femmes comme Pauline Roland, à certains moments, ou Jeanne de Rouen. Je pense qu'en plus, c'était pas forcément les mêmes. Ça concernait pas forcément les mêmes secteurs de la population et les mêmes.
Au niveau Saint-Simon, il y a une dimension de l'économie, mais de l'économie pratique dans la société de l'époque qui est beaucoup plus importante. Mm-hmm. Ce qui fait, bah, c'est pour ça que je vous pose la question.
Si, ouais, ouais. Bah, si vous voulez, je pense que les Saint-Simoniens qui ont participé aux grands travaux par la suite, ils étaient dans des sphères qui étaient un petit peu différentes des militants fourriéristes. Après, savoir s'il est certainement, oui, dans les livres d'histoire, c'est sûr que les œuvres d'inspiration saint-simonienne ont certainement. Bah forcément, on en a parlé plus parce que c'est des œuvres réelles aussi. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Kranz, qui était architecte et qui a participé à l'exposition, il faut que j'arrive à me rappeler de tout ça, mais. De l'exposition universelle de 1867, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est dans mon livre, et qui s'est occupé de construire tous les pavillons de l'exposition universelle. C'était un fourriériste. En fait, si on se penche un petit peu sur les fourriéristes et sur leurs œuvres, il y en avait énormément. Il y avait, par exemple, César Daly, c'était encore un architecte. Dans le milieu de l'architecture, il y avait pas mal de fourriérisme ou d'influence. César Daly, ça a été un architecte qui a créé une revue qui s'appelait la Revue Générale de l'Architecture et des Travaux Publics. Et cette revue, elle a duré pendant 42 ans, ce qui est quand même une longévité exceptionnelle pour une revue. Et c'était une revue, mais vraiment d'une très grande importance dans le milieu des architectes. Et c'était un fourriériste. Et ça, bon, alors après, on ne le sait pas forcément, mais voilà. Mais j'ai un peu du mal à répondre, je dis franchement. Mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui auront des idées là-dessus. C'est pas facile pour eux. C'est pas facile à évaluer de toute façon.
Oui, d'abord je me pose une question. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a un blanc dans ce que vous nous avez exposé. Alors je commence par la question. C'est au-delà de tous les échecs ponctuels, de tous les fiascos qu'il y a pu y avoir, de toutes les raisons précises, la répression, ceci, cela, etc., finalement, il y a quand même un échec global, je veux dire, à savoir que l'effet d'entraînement qui aurait dû, d'une manière cumulative, la grande boule de neige qui, etc., aurait abouti à cette révolution sociale sans guerre civile, etc., dont sûrement l'État de Jean rêvé, ne s'est pas produit. Alors, est-ce qu'on peut en donner un peu une raison? J'en donne une raison, alors là je viens au blanc, c'est que vous avez absolument pas du tout évoqué le début de l'offensive, disons, contre le socialisme utopique. J'aimerais d'ailleurs savoir, le mot utopique, quand est-ce qu'il a commencé d'exister? Il y en a au moins, c'est 1848, le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels, avant de développer toute leur méthode, leur analyse sur le sens de l'histoire, disons, c'est le socialisme qui est un beau jour, etc. Je veux dire, commence par faire une critique radicale du socialisme utopique. Et le manifeste s'adresse aux militants, à tous les gens, ça bouge quand même. 1848, bien sûr, mais tout le 19e siècle est traduit par des courants quand même assez importants de remise en cause fondamentale de la société, en particulier du capitalisme, je veux dire. Bon, autrement dit, à l'intérieur même du mouvement, il y a des gens qui disent « attention, il y a des mauvaises solutions ». Et généralement, on combat à la fois l'adversaire, disons, frontal, hein, c'est-à-dire celui du système, puis aussi ceux qui, à l'intérieur, risquent de miner, disons, la capacité de changement de la société. Alors, Marx et Engels auraient pu rester des gens qui parlent, des gens qui font des théories, qui en écrivent, mais il se trouve que quand même, ça, disons, leur action s'est greffée sur des tas de choses et aboutit à tout un système, disons, de contre-société syndicale, politique, et puis il se trouve que ça, en plus, ça a rebondi avec la révolution russe, etc. Bon, autrement dit, en permanence, disons, ceux qui ont été tentés et qui continuent de l'être, parce que socialisme-là, avec toutes ces réalisations ponctuelles qui disent plutôt que le grand soir, on peut peut-être faire, je ne vais pas dire des petits soirs, mais choses concrètes, je pense par exemple à la période post-68, où on a quand même bien vu une résurgence de tout ce qui est communauté, etc. Donc, grand intérêt, à mon avis, c'est qu'en permanence, ça pose le problème de la légitimité de ce qui existe, pour dire, il y a une autre manière de faire. Bon, bah, plutôt que d'attendre que tout le monde s'y mette, nous, on essaye notre niveau. L'aspect pédagogique est important, parce que Fourier, ce que vous nous avez expliqué, l'effet d'entraînement, c'est aussi une pédagogie. On fait appel à la raison, on fait dire, bon, bah, on s'y met, puis on verra bien. Bon, puis en fait, c'est quand même resté, et ça continue de rester des choses marginales, sympathiques, mais marginales, quoi. Mais je pense aussi qu'il y a des centaines de milliers de militants, je pense en particulier ceux qui ont été dans la mouvance du PC, de la CGT, et en particulier au moment où la CGT est traversée par des mouvements, disons, très antagoniques, hein, avant les scissions, on leur a bien mis dans la tête qu'il fallait comprendre toute la nocivité, disons, de la diversion que pouvait constituer les matières utopiques. Voilà, alors là, il y avait ma petite question incidente. Le mot utopique lui-même, sauf erreur, il figure explicitement dans le manifeste, qui était quand même le catéchisme de centaines de milliers de militants, mais de quand il date exactement?
Moi, je
peux ajouter juste... Oui. Non, pardon. Ah, j'ai profité du micro qui passait. Non, puis c'est dans le prolongement tout à fait de ce que vous venez de dire. Au fond, vous avez dit que cette bibliothèque était évolutive, destinée à se poursuivre. Donc ma question était jusqu'à quand, quoi. Parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'il y a une postérité très longue, hein, peut-être inconsciente, d'être une postérité. Peut-être les gens réinventent la Lune sans le savoir. Mais je pensais, effectivement, moi j'ai vu enquêter sur les communautés post-68ardes. Bon, elles n'étaient pas toutes de ce type-là, mais certaines avaient une inspiration assez proche de celle-là. Je pense par exemple... Non, ce n'est pas communauté en l'occurrence, mais c'est les écoles parallèles. Voilà, Vitruve, par exemple, des choses comme ça, où l'idée de fabriquer des hommes nouveaux, voilà, était tout à fait présente, du même type. C'est-à-dire qu'on a une espèce de continuité, de résurgence de ce type d'idée. Donc ça se prolonge très très longtemps, ou bien sous la forme aujourd'hui de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, voilà, bon, sous diverses formes, ça se prolonge très très longtemps. Donc voilà, c'était la question de... où ça s'arrête, où est-ce qu'il faut arrêter, où est-ce que ça dure jusqu'à maintenant. J'ai une deuxième question parallèle qui s'adresse à Anne. c'est vrai que, dans le même ordre d'idée, c'est vrai qu'on voit ressurgir un coup de temps en temps des états généraux. Bon, vous l'avez signalé, je me demande un peu pourquoi. Voilà, effectivement, est-ce qu'il y a une filiation? D'ailleurs, est-ce que vous avez réfléchi à ça, étudié ça? Est-ce qu'il y a dans ces résurgences régulières d'états généraux de ceci ou de cela, là aussi, une espèce de filiation implicite ou explicite? Voilà.
Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Alors, moi, sur le terme utopie, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas que Marx qui traitait les fourriéristes ou autres d'utopistes. Dans les journaux de l'époque, ils sont ridiculisés comme étant des utopistes par des gens de tous bords. Hein, c'est tout à fait... Mais si vous voulez, moi, si j'utilise le terme utopique et utopiste, c'est juste pour situer, parce que c'est vrai que ce corpus de socialistes-là est connu comme les socialistes utopiques. Et moi, ce que si vous voulez, moi, la polémique de savoir à quel moment ils ont été appelés utopistes, si c'est par Marx ou par quelqu'un d'autre, je ne me situe pas franchement à ce niveau-là. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est en tant qu'historienne, je pense que le fait de les avoir qualifiés d'utopiques, d'utopistes, est quelque chose qui a... Enfin, je suis pas la seule à dire ça, hein, mais je m'inscris dans cette vision des choses. Je pense que c'est une approche stérile d'un point de vue historien. C'est-à-dire que les avoir cantonnés dans ce côté auteur d'utopie, et c'est vrai qu'ils ont écrit des textes littéraires qui ont toutes les formes de l'utopie, les avoir cantonnés dans ce modèle-là, ça, si vous voulez, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une dimension stérile et qui peut éviter de voir et de connaître certaines choses. Par exemple, la dimension expérimentale de leur approche. Bon, là, moi, j'interviens sur la question de l'espérance. Et ce que je voulais montrer, alors j'espère que je l'ai un petit peu montré, c'est en termes de modalité du passage vers la société rêvée, en termes de modalité de l'espérance, en termes d'attente d'un bonheur ou d'une autre chose. Eh bien, il y a un rôle central qui est attribué aux réalisations pratiques chez ces gens-là. Voilà. Mais après, la question d'utopie, bon, c'est un débat qui est un petit peu maintenant... je sais pas. Mais peut-être qu'il faut un peu sortir de ça, je sais pas. Faut pas non plus... je crois que c'est un débat qui a eu déjà... qui a tellement été... développé que bon.
Oui. Bon, sur les états généraux, j'ai pas fait d'études. Ce serait une très bonne idée. Il y a des jeunes là qui s'en chargeront sans doute. Je pense réellement qu'il y a une réapparition. Enfin, on voit bien. Il me semble un renouvellement de cette occurrence. Dans une période qui est quand même relativement tardive, enfin relativement récente. Et je pense que c'est une utilisation justement pour recréer un nouveau collectif. Hein, c'est ce que j'ai cherché à dire, que c'est une belle création politique, ce renouvellement sémantique enfin, du tiers-État dans la fin, enfin, de l'expression tiers-État dans la fin du XVIIIe siècle, et qu'après tout, c'est une tentative pour lui redonner du sens à notre façon dans la fin du XXe siècle, à un moment où, justement, il y a une méfiance par rapport à la définition des groupes sociaux et liée bon, à l'échec du marxisme dans sa forme du communisme institué. Donc il y a vraiment, je crois, là, une volonté de sortir justement de l'analyse en termes de conflits de classe en utilisant des termes qui différents pour mettre ensemble tous ces gens qui ont envie de penser ensemble pour produire du nouveau. Donc là, ce serait très intéressant, mais je pense que là, des historiens de l'époque contemporaine feront ça très, très bien, de voir quand ça apparaît et comment c'est utilisé. Donc ça, c'est pas un travail que j'ai fait. Mais en même temps, ça peut faire réfléchir à là où on se trouve, nous, par rapport à ces analyses des conflits sociaux. Bon, c'est comme quand je parlais de mouvement, je crois que ça traduit quelque chose qui est de même type. Donc ça me ramène un petit peu à ce que disait ma collègue. Il y a des moments dans lesquels on est peut-être plus dans l'échec d'une grille de lecture sociale préalable que dans l'élaboration. Alors les deux se faisant en même temps, mais... on voit bien que le grand triomphe de la bourgeoisie de 89, c'est quand même d'avoir fait oublier quelle était la bourgeoisie. Donc il y a un moment où un groupe social arrive à sédimenter autour de lui, à agréger autour d'un projet qu'il porte l'ensemble de la société et à en faire le projet commun. Donc ça a bien fonctionné, ça a produit notamment ces droits de l'homme, ça a produit aussi tout le débat que je voulais évoquer sur la question de la propriété et donc sur cette articulation possible et nécessaire pour les démocrates de l'époque entre propriété, enfin nécessaire, réelle, entre propriété et liberté, justement ne triomphe pas et d'après Marx ou d'autres lectures du 19e, justement, ne peut pas triompher parce qu'on est là dans quelque chose qui ne traduit pas une réalité sociale. Donc après, on a quand même cet immense reflux, et notamment ce que certains ont appelé je ne retrouve plus l'expression, mais enfin, le fait que le peuple perd toute légitimité politique et que progressivement, cette légitimité politique, elle réémerge, et notamment à travers différentes formes du mouvement ouvrier. Mais je pense que dans ces années 30-40, il y a effectivement une matrice des droits de l'homme qui reste. Y compris Marx dit bien que les droits de l'homme, c'est un grand progrès. C'est un grand progrès et il défend toujours la liberté religieuse, les grands principes des droits de l'homme de 89, tout en disant que c'est quand même une liberté qui bénéficie surtout à un groupe social, qui est le groupe social dominant, qui est la bourgeoisie, qui impose des limites justement à la liberté des autres, y compris à la liberté d'expression, voire à la liberté religieuse d'ailleurs quand ça l'arrange, en usant d'une façon qui est, d'après lui, inscrite dans la question de la propriété, donc en usant de la liberté pour assurer sa domination sociale. Mais donc là, je pense que réellement, il y a des moments où, moi, ça m'a beaucoup impressionné en t'écoutant, quoi. Par rapport justement à cette immense ambition des années 90, parce que ça ne se tarit pas tout d'un coup. Il ne faut pas croire que l'échec de 95, la fin, même, il y a une poursuite de cette ambition universaliste, donc d'ambition de transformation de l'ensemble de la société et d'articulation. Donc c'est ça que j'ai oublié de dire, qui est l'articulation des droits de l'homme et du citoyen. Et finalement, c'est sur cet échec, justement, de la transposition par la politique d'un ordre social, la mise en place par la politique d'un ordre social juste qui permet le bonheur commun, donc cette articulation réussie des droits de l'homme et du citoyen, que on va vers d'autres tentatives qui sont des tentatives à l'intérieur d'un échec face à cette ambition de bonheur et d'harmonie sociale, en créant des harmonies sociales dans des espaces marginaux, mais à partir desquels, effectivement, on peut espérer un effet de modèle. Et là, on se rapproche bien des hommes de la Révolution française à travers l'importance de la morale et du modèle moral comme outil des dynamiques sociales, ce que par ailleurs Marx condamne. Et dans sa dénonciation de l'utopisme, ces socialismes, il y a cette dimension de pensée que lui pense liée à l'Antiquité et pas du tout opératoire dans la société du 19e siècle.
Oui, Anne-Jolie a commencé à aborder la question que je voulais poser. Comment faire le lien entre les deux périodes que vous avez abordées, entre le moment utopique, qu'on peut lire comme ça, de la Révolution française et les réalisations utopiques de la période qui suit? Et c'est aberrant de raisonner de cette façon-là. Alors, c'est peut-être aberrant de le faire théoriquement, en essayant de réfléchir in abstracto à la place des idées, à la place des pratiques, etc. On peut le faire de façon polémique, comme ça a été fait tout à l'heure, en disant qu'il y a eu une condamnation par le socialisme marxiste des socialismes dits utopiques. Mais on peut le faire dans l'autre sens aussi. Si on veut être polémiste, on peut dire aussi que c'est aussi l'échec, c'est ce que suggère Anne à l'instant, c'est aussi l'échec, la contre-révolution, l'incapacité à changer par en haut, etc., qui pousse à se saisir des mêmes idées, mais à les faire travailler autrement. Voilà, on peut le faire aussi de façon pratique, j'imagine que l'historien préfère. Donc, dans quelle mesure on reconnaît du côté de l'historien de la Révolution, dans certains courants, dans certaines idées, dans certaines pratiques du début du XIXe siècle, un certain nombre de prémices de la Révolution, et à l'inverse, dans quelle mesure les premiers socialismes reprennent de façon différentielle ces aspirations de la Révolution.
J'ai pas bien entendu la première partie de ta question, de ce que tu viens de formuler là. Excuse-moi.
La question est unique, c'est de savoir les liens que vous pouvez faire, en allant un peu au-delà de ce que tu viens de dire, entre les idées qui ont été mises en avant lors de la Révolution, notamment dans la deuxième partie de ta présentation, et celles qui se mettent en œuvre dans les années postérieures. Est-ce que de quelles prémices on parle et de quelles traductions on parle dans cette période-là? Est-ce qu'il y avait un communisme ou un socialisme à l'œuvre dans les textes révolutionnaires et comment se définissait-il et dans quelle mesure il se traduit par les réalisations postérieures des premiers socialismes? Non, c'est toujours pas...
Oui. Bon, il y a d'une part le fait que cette c'est la Révolution française, donc qu'on appelle très vite la Révolution avec un R majuscule, elle a été immédiatement un objet d'histoire pour ses propres acteurs et immédiatement un objet d'histoire pour les gens qui pensent, hein, qui pensent la société au début du XIXe siècle. Donc il y a immédiatement effectivement la question du sens global et de ce que ça représente dans le développement des sociétés est immédiatement posée. Globalement, l'interprétation libérale qui domine, hein, c'est que cette révolution, c'est quelque chose de majeur qui s'inscrit dans une évolution de longue durée, qui est l'émergence de la bourgeoisie. Et vous le savez, pour des gens comme Guizot, elle marque la fin de l'histoire, et donc elle est la dernière des révolutions, puisqu'elle a permis l'arrivée au pouvoir de la classe, hein, Guizot donc introduit cette notion de la classe sociale qui doit dominer la société pour le plus grand bien du développement social. Donc ça, c'est l'interprétation dominante. Il y a évidemment des vaincus de cette révolution qui sont réellement des vaincus. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se sont recyclés, qui notamment sont rentrés au service de l'Empire, mais il y a aussi tous ceux, et notamment parmi les militants sans culotte de l'an 2, ceux qu'on appelle les terroristes, hein, ceux qui ont été désarmés en 95, hein, désarmés ça veut dire qu'ils ont perdu leurs droits civiques, donc qui ont perdu pour un certain nombre d'entre eux leur statut social, hein, leur possibilité de, leur statut social, avec une réalité, hein, de la misère, etc. Et il y a une véritable défaite idéologique. Il y a une hargne terrible, notamment à l'encontre de Robespierre, avec toute une construction dès 95 d'une image qui est totalement repoussante, y compris physiquement de Robespierre. Une revanche contre ces personnages donc associés à l'épisode de la terreur. ou on peut le dire autrement, à l'épisode démocratique, donc, mais qui sont qualifiés de terroristes. Et cette disqualification, elle pèse d'autant plus, elle est redoublée au moment de la Restauration, avec l'exil des anciens régicides, donc, qui touche un nouveau groupe social, y compris des gens qui pouvaient être socialement relativement bien intégrés, qui quitte la France, mais la disqualification de toute ambition concernant justement les transformations des droits politiques, hein, y compris, est vraiment très 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 mal menée. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un effet de défaite, hein, qui est terrible et qui secoue l'ensemble de l'Europe. C'est aussi l'Angleterre, par exemple, qui est dans une période de régression par rapport aux libertés, par rapport justement à une ambition de transformation sociale. C'est aussi les déceptions qui sont liées à la révolution américaine. Hein. On est vraiment dans une période de déception. Hein. On bute sur l'impossibilité ou la difficulté de transformation, d'où la multiplication des sociétés secrètes, des attentats, hein, comme recours contre cette espèce de couvercle, hein, qui s'est abattu sur l'ensemble de l'Europe. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que j'ai en partie répondu à ton affaire, hein, de façon trop globale? À part ça, oui, ce que je voulais dire, c'est que en même temps chemine toute une mémoire justement de ce militantisme de l'an 2, avec une valorisation à travers notamment le milieu des compagnons urbains qui ont constitué le milieu le plus politisé, donc à travers la survie de cette catégorie sociale, hein, qui est particulièrement importante dans la France du premier 19e, mais même dans la France de tout le 19e, et qui est porteuse de cette pensée d'une autre société pour laquelle la référence reste au moins jusqu'en 1830, la référence à la déclaration des droits de l'an 2. Alors là aussi, pourtant, cette déclaration des droits, elle est très en retrait par rapport aux propositions de Robespierre, elle est très en retrait par rapport à d'autres propositions qui ont été faites ensuite par les babouvistes, mais ça reste la référence, et une référence obligée aux sans-culottes et à la pensée démocratique, à l'organisation démocratique aussi, dans les sections, à la fraternité, au tutoiement révolutionnaire, donc à toute une culture de l'an 2 qui effectivement chemine. Alors on trouve ça en particulier autour de la façon dont les anciens exilés, les régicides, ont été accueillis lors de leur retour. Ils ont été autorisés à revenir après la révolution de 1830, et les quelques-uns qui sont survivants sont fêtés avec une rencontre qui est souvent assez pathétique. Bon, d'une part, ce sont des gens très vieux, et puis ce sont des gens qui sont réellement marqués par une autre expérience politique et sociale que celle qui est connue par les nouveaux militants de 1830. Et en fait, la plupart d'entre eux, il y en a qui meurent très vite, mais d'autres qui survivent quelques années, on voit bien qu'ils sont devenus un peu des totems, quoi. Ils sont l'expression de quelque chose qui a été, mais en même temps, politiquement, ils témoignent aussi de l'impossible réactivation des mots d'ordre de l'an 2 comme mots d'ordre politique réellement efficace. Mais ça reste évidemment une matrice sur laquelle on s'appuie. Et bon, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, enfin, vous avez assisté comme moi à des manifestations récemment, on y voit le bonnet phrygien, la cocarde tricolore. Et là aussi, ça montre comment des signes. Et là, je pense que réellement, ils n'ont jamais disparu. Hein. On les retrouve en 1936. Donc, si Michel Pigenet était là, il pourrait nous reparler de cette réactivation de la Révolution française. Bon, j'ai projeté la Marseillaise de Renoir à certains des étudiants là, pendant le mouvement. Comment il y a là un recours pour penser impossible la possibilité du changement, indépendamment d'une utilisation efficace de cette matrice politique.
Sur les sources des mouvements des premiers socialistes dans la Révolution française. C'est toujours comme ça entre les modernistes et les 19e-istes ou parfois il y a du dialogue.
Il y a quoi ?
Il y a parfois du dialogue ou pas ? On a l'impression qu'on ne peut pas faire dialoguer deux périodes historiques différentes. C'est un peu à ça moi, que je vous invite.
Qu'on est des imbéciles en histoire,
ça a l'air difficile.
Bah, non, mais vous savez, moi, j'ai fait une thèse sur les premiers socialistes et l'enfance. Donc, j'ai étudié la conception que les premiers socialistes avaient de l'enfance. J'ai vraiment traité ce sujet. Et la question que vous posez dépasse mes connaissances. En même temps, c'est une question très complexe, donc il y a plein d'idées qui me viennent, mais je ne suis pas sûre de répondre des choses justes. Par exemple, je pense que Cabé a écrit beaucoup de choses sur la Révolution française, je sais que Louis Blanc aussi. Bon, moi, je ne suis pas capable là tout de suite de vous expliquer ça en long et en travers, parce que ça dépasse mes connaissances. Par contre, ce que je peux vous raconter pour anecdote, c'est que comme je fais cette bibliothèque, j'ai été contactée par un monsieur, je ne me rappelle pas le nom, et qui est prof d'histoire moderniste à Lyon, et qui anime un site sur la Révolution française avec des étudiants, et qui numérise des documents, et qui m'a demandé de voir si je trouvais des choses, justement, dans tous mes documents qui traitent de la Révolution française, pour qu'on puisse les mettre en commun, qu'on puisse faire correspondre nos sites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, c'est une piste. C'est-à-dire, je parle des fourriéristes, attention là, hein, parce que c'est vrai que chez les fourriéristes, je trouve vraiment très peu d'allusions à la Révolution française. Il y a des allusions récurrentes à la question des droits de l'homme, par exemple justement sur les questions des droits de l'enfant, parce que les fourriéristes font partie des gens qui ont très tôt parlé des droits de l'enfant, ce qui est assez original, bon, même si ça n'a pas été massif, mais en tout cas ils l'ont fait. Voilà, il y a aussi des socialistes qui utilisent les plans éducatifs, les nombreux plans éducatifs qui ont été élaborés pendant la Révolution française, en particulier celui de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Voilà, ça c'est une réponse que je peux vous donner. Après, ça serait une réponse extrêmement complexe et extrêmement longue et qu'il faudrait préparer. Voilà.
Oui, je pense quand même qu'il y a vraiment une obsession. Enfin, la Révolution française, on ne se rend pas compte de la place qu'elle... qu'elle occupe, alors jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas pour tout le 19e siècle, enfin on peut dire peut-être jusqu'à la révolution soviétique, dans toute la pensée du social, enfin de la société. C'est vraiment quelque chose qui est la référence partout. Alors, qui est soit vraiment au nid, enfin, je crois que là aussi, on imagine assez mal la violence de la répression, mais qui n'est pas forcément une répression justement contre des personnes, parce qu'ils sont véritablement anéantis. Il y a un tabou. Moi, j'ai un peu travaillé sur la biographie de Robespierre, par exemple. C'est vraiment... Il n'y a pas de mémoire sur Robespierre. Toutes les lettres émanant de Robespierre ont été brûlées, enfin ont disparu, d'où la difficulté de faire une biographie de Robespierre, parce que réellement, les gens se sont débarrassés de tout ce qui pouvait témoigner d'un lien avec ce personnage. Et je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de sa sœur... qui sont publiées tardivement, en 1834, et dans lesquelles elle minimise beaucoup, justement, tout en l'admirant énormément, l'envergure politique de... Elle admire beaucoup son frère, mais en même temps, le contenu politique est extrêmement faible dans ce texte. Parce que, réellement, il y a une haine liée à l'épisode terroriste... qui qui est au cœur aussi de l'actualité politique. Et je pense que si des gens comme Fourier ne font pas allusion, c'est que volontairement, effectivement, ils haïssent ce moment. C'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas ça. Donc il faut trouver d'autres façons de faire. Et évidemment, ça ne peut pas passer par là. Donc on voit bien qu'à l'arrière-plan, il y a plutôt un tropisme vers l'Amérique du Nord, avec l'idée justement d'un espace neuf dans lequel on va pouvoir faire du neuf, et une volonté d'échapper à ce qui, quand même pendant longtemps, a été un poids très négatif. Et alors on voit bien comment la référence est omniprésente, mais vraiment elle anime des courants du type Mazzini, enfin des exilés, qui ont une vision d'ailleurs souvent assez sommaire politiquement de la révolution, mais totalement en marge du système social et des luttes sociales dominantes. Et c'est vraiment que progressivement, et notamment à travers Marx, enfin les marxistes, qu'il y a une reprise en charge politique de cet épisode terroriste. Donc là aussi, la défaite a été très au-delà de ce que, par exemple, la lecture libérale, au départ, met en place.
Y a-t-il d'autres questions, d'autres interrogations ? Parce qu'on avance bien dans... On a encore quelques minutes. Hein.
Oui, moi j'ai peut-être deux questions aux deux intervenantes, même si elles ne se rejoignent pas forcément. Toujours dans l'idée de réfléchir aux conditions de construction d'autres possibles. Donc je vais un peu prendre les questions dans l'ordre d'intervention. D'abord pour Anne Jollet, pour réfléchir à ce moment que tu as présenté comme... un moment d'incertitude avant les états généraux sur ce moment où la monarchie n'avait pas fixé les règles des états généraux et où, du coup, dans cette zone d'incertitude, pour reprendre un vocabulaire un peu décalé, dans cette zone d'incertitude se sont créés des espoirs, des espérances. Alors, est-ce que c'est une question ? C'est peut-être amené à réfléchir sur aujourd'hui aussi, où sont ces zones d'incertitude laissées en quelque sorte peut-être par ce qui pourrait être interprété comme une erreur politique, en fait. C'est plus une question, peut-être pas pour toi directement, mais amenée à ce qui pour moi est un point de réflexion par rapport à ces journées. Et puis, une question ensuite à Nathalie Brément sur ces socialistes utopistes qui, malgré les échecs, persistent, ne renoncent pas. Alors c'est un point, et bien évidemment aujourd'hui, étant donné notre actualité qui est particulièrement vive, c'est sur quoi repose cette persistance, ce non-renoncement. Et derrière cette question, c'est qui sont ces acteurs ? Quelles sont leurs ressources ? Alors ressources matérielles, mais aussi ressources politiques, ressources peut-être institutionnelles. Ressources matérielles, la question que je me posais, c'était aussi, ont-ils des ressources propres ? Ou sont-ils finalement dépendants du système qu'ils cherchent à créer, c'est-à-dire qu'ils travaillent eux-mêmes dans ces associations, dans ces communautés, et que une communauté finissant, ils sont dans l'obligation, en quelque sorte, d'en créer une autre pour eux-mêmes survivre, continuer à subvenir à leurs besoins. Enfin, voilà, ce genre de questions, c'est d'abord qui sont ces acteurs et quelles sont leurs ressources.
Je me souviens plus bien de ta question parce que je pensais à autre chose.
C'est quoi ? Non, mais c'était pas vraiment une question. C'était aussi, enfin, est-ce que finalement cet espace, le fait que les règles des états généraux n'aient pas été très vite fixées et qu'elles aient laissé un espace, une incertitude sur laquelle se sont construites les espoirs, voilà. Comment tu l'interprètes?
Le problème, effectivement, on peut dire c'est lié au fait que Louis XVI était un gros balourd, il était un peu indécis, qu'il était influencé par sa femme, etc. Bon. On peut dire aussi que réellement, il se trouve, je sais pas si dans un vocabulaire marxiste, on dirait au cœur des contradictions, c'est-à-dire que réellement, il y a des groupes qui n'attendent pas la même chose et donc n'acceptent pas la même forme d'organisation. Et lui-même est entre ces groupes de pression, lui-même étant plutôt d'ailleurs conservateur dans l'histoire et pensant que effectivement doubler le tiers ça pouvait se concevoir, mais qu'il n'y a pas de raison pour rompre avec l'ordre ancien. Et lui, il attend réellement un déroulement des états généraux qui viendront conseiller le prince. L'attente, elle correspond à la situation réelle de crise. Alors après, tu disais par analogie par rapport à la situation actuelle ou à tout conflit, effectivement, le problème est de savoir si réellement le pouvoir lui-même est bloqué par rapport à des forces contradictoires. Et en l'occurrence, si tu fais allusion à notre mouvement universitaire, on a pu penser que le fait qu'une partie des élites s'intéresse au sort de cette université publique et que donc au sommet des hiérarchies universitaires, y compris dans les corps conservateurs de celle-ci, il y ait des gens qui participent à cette opposition au pouvoir, donc une espèce de convergence de groupes sociaux qui n'ont pas la même conception ni de l'éducation publique ni de la société puissent se trouver dans une convergence, on pouvait se dire c'est effectivement une situation de faiblesse pour un pouvoir. En fait, on peut aussi analyser ça autrement, enfin, et penser, mais là on est dans notre analyse sociopolitique, et penser que de fait ce sont justement plus des groupes dominants. Ce sont des groupes qui se croient peut-être une puissance sociale, mais qui ne sont plus dominants dans leur relation au pouvoir. Hein. Je ne parle pas qui du coup pèsent faiblement sur le pouvoir, et sans doute beaucoup plus faiblement qu'ils ne le pensaient, d'où d'ailleurs leur colère acharnée, mais d'où aussi leur réelle faiblesse, et qui du coup est aussi la faiblesse de tout le monde, parce que si le pouvoir ne se trouve pas pris au cœur de contradictions, il me semble que là, en tout cas, on n'est pas dans la configuration des états généraux de 89. Hein, je pense que la non-décision de Louis XVI est tout au long de la Révolution, elle est liée à la réalité de cet affaiblissement du système ancien, qui est y compris miné par ceux qui en sont, qui sont censés en être les bénéficiaires, mais qui n'en sont plus désormais satisfaits non plus. Là, après, il s'agit toujours d'analyser concrètement les situations que l'on vit pour savoir si les contradictions sont véritablement profondes et à même de mobiliser des groupes sociaux larges et notamment de coaliser effectivement sur des mots d'ordre. Ou pas. Alors, je voulais dire un dernier mot, mais très très brièvement, quand on a parlé du début du 19e siècle, s'il y a un milieu dans lequel a continué à cheminer, et en tout cas ça a ressurgi autour de 48, c'est la petite paysannerie. Il y a dans ce maintien de structures sociales de même type et en partie consolidées par la Révolution française, qui est la petite paysannerie propriétaire, qui est relativement une originalité française, une originalité sociale. Il y a quelque chose qui socialement explique aussi la longévité de cette référence à la République de l'an 2, hein, la Première République, comme un modèle réellement social, réellement possible. Donc ce qui ressurgit très clairement, et pour le coup Agulon l'a bien étudié dans le Midi Rouge, qui se traduit par une résurgence de ce modèle de la liberté par la propriété, qui est la grande pensée démocratique des sans-culottes de l'an 2. Hein, c'est la réalité de l'accès à la propriété qui est la condition de la liberté. Et ce modèle bon, du petit propriétaire indépendant bon, va ensuite se décliner dans une terminologie différente, mais en se situant bien politiquement dans la filiation de la Première République.
Donc, si j'ai bien compris, c'était une question un peu sur les participants aux expériences, en fait. En fait, ils se recrutaient en majorité chez les ouvriers lettrés, les petits commerçants, les artisans, voilà. Mais ils étaient, en tout cas chez les fourriéristes, les expériences étaient souvent menées par des gens qui étaient soit polytechniciens, soit avocats, soit médecins. Mais les gens qui participaient, qui s'inscrivaient dans les bureaux de recrutement pour partir dans les communautés, c'était souvent, comme je vous l'ai dit, des petits artisans, des gens des petits métiers. La caractéristique de ces gens qui partaient réaliser leur idéal dans des communautés et des colonies, c'était qu'ils partaient en famille, c'est-à-dire que bien souvent, ils laissaient tout derrière eux et ils partaient vraiment avec femmes, enfants, puisque c'était quand même souvent à l'initiative des hommes, et puis même les grands-parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, enfin, c'était souvent des départs vraiment familiaux. En ce qui concerne les communautés icariennes, on dispose de beaucoup de sources sur les bureaux de recrutement, parce qu'il y avait des bureaux de recrutement, ils étaient sélectionnés, on ne laissait pas partir tout le monde, et donc on a beaucoup de choses sur les gens qui voulaient partir. Alors, par exemple, la question des gens qui participaient, c'est aussi quelque chose d'intéressant sur la problématique de l'échec, parce qu'on pourrait, d'une certaine manière, interpréter une partie de l'échec de ces communautés justement par le succès qu'elles ont remporté. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a, quand les protagonistes des communautés ou des colonies, des expériences en tout genre, ont lancé leur projet en écrivant des livres, en publiant des articles, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'ils ont eu énormément de succès et vraiment les gens se précipitaient pour venir. Et là, ils ont été carrément débordés. Il y a plusieurs situations, en particulier au Texas et pour les Icaris, mais même par exemple au Brésil, où ils avaient trop de monde. Et ils ont cédé à une espèce de pression. Et en fait, ils se sont trouvés très vite avec des familles entières à gérer dans des conditions qui n'étaient pas du tout prévues pour. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas suivi la logique qui s'était fixée et qui consistait à d'abord envoyer des hommes pour préparer les colonies et ensuite accueillir les colons. D'ailleurs, qui était une démarche tout à fait cohérente avec la démarche colonisatrice des autres colonies de l'époque, quoi. Voilà. Je ne sais plus ce que c'était. Au niveau des ressources matérielles, c'est vrai qu'on peut se poser la question, si est-ce qu'ils ne retournaient pas dans une autre colonie parce que la première avait échoué et que de toute façon, ils n'avaient plus rien. Ça, ce n'est pas du tout forcément évident parce que, moi, ce que je vous ai dit, bien évidemment, ça ne concernait pas tout le monde. Il y avait aussi des gens qui partaient des colonies et qui recréaient leur vie ailleurs. On a beaucoup de témoignages de gens qui ont quitté la colonie icarienne et puis qui ont été s'installer ailleurs, qui ont eu une nouvelle vie à New York, à Chicago, à San Francisco. Mais il y a aussi des cas de familles qui partaient et puis qui revenaient. Aussi, qui partaient et puis qui revenaient parce que... peut-être que c'était peut-être pas forcément sincère, mais ils écrivaient à KB que finalement, ils s'étaient rendus compte que c'était mieux en Icarie. Enfin, il y a tout un tas de cas de figure, quoi.
D'autres questions ? Anne, tu...
Non, je voulais juste te dire que j'avais apporté quelques reproductions de textes que je pensais utiliser dans mon exposé, notamment un discours de Robespierre sur les subsistances. Donc, si certains veulent approfondir cette question, ce texte est ici. Et un autre qui développe davantage l'aspect d'analyse sociale par la sans-culotterie de la façon dont la bourgeoisie constitue une nouvelle aristocratie. Donc, et c'est ça qui va être l'objet de la haine sociale et de l'ancienne aristocratie et de la bourgeoisie, très réconciliée, c'est le cas notamment à Poitiers au XIXe siècle, mais que les sans-culottes expriment justement dans ces termes hein, de bourgeoisie, nouvelle aristocratie, créatrice de nouveaux privilèges, etc. Donc j'avais choisi un de ces textes, qui produit une nouvelle analyse politique lié à cette question de l'égalité ou de l'inégalité des jouissances. Voilà, à part ça, je vous conseille, hein, si vous voulez lire sur, c'est un peu triste, hein, sur l'effet des défaites, il y a eu un très beau mémoire qui a été fait il y a déjà quelques années, un livre publié par Sergio Luzzatto, qui s'appelle « Les mémoires de la terreur », qui est un recueil de textes écrits par d'anciens terroristes qui reviennent sur leur expérience dans les années justement 1920, alors qu'ils sont la plupart en exil. Et c'était une démarche donc, d'un collègue italien qui est bon, actuellement plutôt politiste, hein, qui travaille maintenant plutôt sur le XXe siècle, mais qui a ouvert quelque chose de nouveau par rapport à l'historiographie française, qui traditionnellement était marquée par la lecture républicaine, plutôt d'une suite de succès de cette généalogie justement des droits de l'homme et des conquêtes de la Révolution française, donc réouvert ce chantier de la défaite. Alors, à l'époque, il l'a réouvert aussi dans les années 90, et vous voyez que pour une partie de la gauche, bon, vous parliez de la gauche communiste, c'est évidemment une époque de grande défaite qui rendait sans doute très sensible cette situation. Moi-même, j'ai travaillé sur un militant sans culotte, par exemple, de Touraine, un ancien terroriste dont on perd complètement la trace et dont j'ai retrouvé la trace d'un de ses frères, qui était aussi militant terroriste dans la même ville, et qui est à Strasbourg, professeur à l'université de médecine, et qui a rompu tous les liens avec sa ville d'origine, qui est marié avec une Alsacienne, etc. Et donc, toutes les traces sont barrées derrière lui, quoi. Il fait une nouvelle vie ailleurs. Voilà un destin de révolutionnaire quand la révolution est vaincue.
D'autres interventions ou vu qu'on, je pense que certains commencent à avoir faim éventuellement ou à être fatigués. Peut-être, il y a juste une question à laquelle Nathalie n'a pas répondu. C'était sur le fond du bois et la bibliothèque. C'était jusqu'à quand justement? Quel était le bornage chronologique d'une certaine manière des justement les réalisations? Enfin, comment on clôt cette histoire de socialistes, des premiers socialistes, où s'arrête-t-il? Parce que, en fait, dans cette question-là, je me permets d'intervenir, mais il est vrai que la volonté de construire une société totale dans des micro-organismes qui sont censés devenir plus grands, on le retrouve quand on fait un peu, il y a très très peu de travaux là-dessus, mais dans les caisses de secours mutuelles, dans l'esprit mutualiste, on retrouve dans le mouvement coopératif, et bien entendu aussi dans le syndicalisme. Le syndicalisme, on tente, au moins dans les premières années, c'est sans doute ce qu'aurait pu montrer Michel Pigeonnet, on essaie de reconstruire une société à partir d'un collectif là, de travailleurs, mais dans le mouvement coopératif et mutualiste, avec des nuances, on est à peu près dans les mêmes rails. Donc, à intégrer ou pas?
Non, parce que le corpus de la BVPS, de la Bibliothèque virtuelle sur les premiers socialistes, c'est en fait des corpus qui... Enfin, ça correspond vraiment au fond du bois sur les socialistes donc, utopiques, c'est-à-dire... disons que la date un petit peu, enfin la date qui marquerait la fin à peu près de cette période, c'est les années 70 avec la Commune, avec l'AIT, même si l'AIT c'est 64, donc avec la première internationale, c'est l'époque de la naissance du mouvement ouvrier, de son développement, des mouvements révolutionnaires, etc. Donc c'est un peu tout ce qu'il y a avant en fait. Ben, c'est ce que je vous disais, c'est des gens comme Pierre Leroux, comme Proudhon, comme Cabet, comme les fourriéristes, comme les saint-simoniens. Mais après, par rapport à ce que tu dis, David, bien évidemment, si c'était une bibliothèque virtuelle sur la question des expériences pratiques et de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, bah, je crois que c'est une bibliothèque qui pourrait mener jusqu'à nos jours, puisque de toute façon, je crois que ces gens-là, ils étaient précurseurs de ce qui se fait aujourd'hui dans tout ce qui concerne l'économie sociale, et que ce genre d'expériences, elles ont toujours existé, elles n'ont jamais cessé d'exister. Et moi, si je peux établir une espèce de filiation entre des gens comme les fourriéristes et ceux qui aujourd'hui mettent en pratique l'économie sociale, bah, je serais contente. Voilà. Mais il n'a pas entendu ce que j'ai dit. C'est pas grave, je redirai.
Oui, dans la bibliographie, j'ai quand même oublié, parce que je fais très mal la pub pour ce que je fais, un numéro des cahiers d'histoire, qui est la revue que je dirige, qui a porté sur ce qu'on a appelé, je crois que c'est les premiers, on avait choisi les premiers communistes, sur aussi ces expériences des années 1830, 1850.
Voilà. Avant que tout le monde se lève, justement, ce qui serait intéressant, c'est de montrer, d'expliquer au public que vous travaillez et vous publiez. Donc, tu as évoqué les cahiers d'histoire, il y a les cahiers d'études fourriéristes aussi, et puis vos plus récentes publications éventuellement que vous allez pouvoir retrouver sur la table de presse en vous dépêchant. Je ne sais pas, il y a des publications récentes que tu... En dehors il y a les annales aussi historiques de la Révolution française.
J'avais apporté, au cas où ça ne soit pas présent sur votre table, un petit volume du CVUH, qui est une association qu'on a créée il y a 2 ans, qui s'appelle, donc CVUH, ça veut dire face aux usages publics de l'histoire, donc un comité de vigilance. Donc là aussi, on est dans les inscriptions généalogiques, puisque c'est une référence au comité de vigilance antifasciste de 1935. Hein. Enfin, et ce CVUH a écrit un petit livre collectif sur comment Sarkozy écrit l'histoire, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Donc j'ai apporté un exemplaire pour le faire connaître, et donc qui est à disposition à 15€ sur la table. Je n'ai pas d'intérêt particulier, c'est Agone qui publie. On a une collection du CVUH chez Agone, voilà. Et autrement, sur le développement des mouvements fin 19e, dans notre dernier numéro des cahiers, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, notamment sur la diffusion des idées anarchistes de part et d'autre de la Méditerranée, dans un numéro qu'on a fait sur les gauches en Égypte. Donc ça peut paraître un peu ponctuel, mais en fait, il y a beaucoup de choses sur justement ces changements dans l'organisation, dans la pensée de la transformation sociale dans les années 1860-70, et notamment l'importance du mouvement dit non autoritaire face au marxisme, avec une diffusion des idées et aussi des tentatives de mise en place d'organisations anarchistes dans le sud de la Méditerranée. Voilà. Donc, notamment dans les pays arabes.
Nathalie, tu peux présenter ton ouvrage. Nathalie, tu peux présenter ton ouvrage aussi, qu'on va pouvoir trouver. Puis après, on arrête là.
Je suis très pédagogue. Tiens, oui.
J'en ai amené. Je pourrais les laisser sur table. Oui, ça m'amuse. Moi, j'ai fait, comme je vous le disais tout à l'heure, une thèse sur les socialistes, les premiers socialistes et l'enfance. Elle a été publiée au PUR l'an dernier, donc j'en laisse quelques exemplaires sur la table en haut. Merci.
Et la suite du programme, donc reprise à 14h30 pour ceux qui seront encore là, et la thématique portera sur les mouvements étudiants, sur la politisation des classes populaires notamment. Donc un grand bond dans l'histoire, mais non moins inintéressant, et donc à tout à l'heure.